Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Arcana les mystères du monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du spiritisme. Vous connaissez tous déjà cette pratique, au moins de nom, et peut-être même que certains d'entre vous l'ont déjà pratiquée. Alors, première question que l'on peut se poser légitimement, le spiritisme, c'est-à-dire une méthode pour entrer en contact avec les esprits des défunts ou d'autres entités, est-il réel ou imaginaire? Eh bien, dans cette émission, je vous propose d'aller au-delà de cette simple question. Car, que vous y croyez ou non, le sujet est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il pose en réalité de nombreuses questions sur le plan de la psychologie humaine, de la religion et la grande question de l'existence d'un au-delà. Enfin, l'émission que je vous propose aujourd'hui est une enquête que j'ai enregistrée il y a 6 ans, en 2020. Et que j'ai décidé de vous proposer en libre accès sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Alors, installez-vous bien et je vous souhaite une excellente émission. Pour commencer, donc, le spiritisme est une méthodologie dans le but d'entrer en communication avec l'au-delà, avec les défunts ou éventuellement d'autres entités. J'imagine que vous avez déjà pris connaissance du phénomène, peut-être via ma vidéo sur Internet, donc où je faisais une vulgarisation de ce qu'était le spiritisme en une trentaine de minutes. Peut-être avez-vous vous-même pratiqué autrefois le spiritisme, ou peut-être le pratiquez-vous encore occasionnellement. Peut-être l'avez-vous découvert via le cinéma, via certains films, comme le film Ouija ou encore L'Exorciste, ou de nombreux autres films. En général, ce sont des films épouvantes horreurs qui ont pour but de montrer une scène de spiritisme qui va mal tourner, engendrant des phénomènes de possession, de psychiatrie ou tout un tas d'autres choses. Le spiritisme est un élément qui fait partie de notre quotidien, du folklore commun, si l'on peut dire, ou du moins des légendes urbaines qui appartiennent au XXe et XXIe siècle. Mais néanmoins, le spiritisme touche également l'aspect religieux. Pour certains, la doctrine spirite, comme on va l'étudier, est une véritable religion qui remplace ou qui supplante les anciennes religions monothéistes, mais également le paganisme. Alors, tout d'abord, le spiritisme en quelques questions et en quelques mots. Tout d'abord, le spiritisme est-il une science occulte, comprenez un art occulte? Est-il simplement une superstition ou est-ce du charlatanisme? Eh bien, tout d'abord, aux yeux de la science, le spiritisme ne peut pas être prouvé. Il n'existe pas à ce stade d'études scientifiques qui permettent de valider l'existence du phénomène du spiritisme. Mais a contrario, l'on pourrait dire la même chose en sens inverse. Il n'existe pas empiriquement une étude scientifique qui permet d'affirmer que le spiritisme n'existe pas. Donc, l'on pourrait dire que ceci est basé grandement sur la croyance individuelle, mais également sur le vécu et le ressenti personnel. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir l'impression qu'une séance de spiritisme obtient un résultat, alors qu'aucune étude scientifique ne permet de démontrer que ce résultat est factuel. Encore une fois, nous sommes dans l'incertitude. Néanmoins, on peut qualifier le spiritisme de ce fait de science occulte, et encore une fois plus précisément d'art occulte. C'est une technique, une méthodologie, encore une fois, qui a pour but d'entrer en communication avec l'au-delà, et donc de ce fait, il entre dans la catégorie dite du paranormal. L'objectif du spiritisme, comme vous l'aurez bien compris, est d'entrer en contact avec les esprits des morts, mais cela peut également être avec d'autres entités, des anges, des démons ou tout un tas d'autres choses que l'on peut percevoir éventuellement dans l'idée ou du moins l'hypothèse d'un au-delà. Alors, les adeptes sont appelés les spirites avec un E, spirites adeptes du spiritisme. Notons que le mot spiritisme lui-même n'existe pas avant l'année 1857, soit l'écriture du livre Le Livre des Esprits par Allan Kardec. Néanmoins, la pratique ou du moins les méthodologies du spiritisme existent préalablement à l'invention du mot. C'est à partir sensiblement du début du 19e siècle, peut-être même à la fin du 18e, que les pratiques dites de spiritisme vont commencer. Donc le mot sera inventé par la suite. Préalablement, on employait un vocable plus générique qui s'appelait le spiritualisme, qui, dans ce cas de figure, est précisément une religion, donc le spiritualisme, et qui va englober la pratique et la méthodologie du spiritisme par la suite. Mais comprenez bien qu'il s'agit à l'origine d'un mouvement religieux qui aura un certain succès et qui tente de remplacer les religions qui existaient préalablement, bien sûr, dans une doctrine déiste, un petit peu plus actuelle, si l'on veut dire, mais néanmoins simplifiée par rapport aux dogmes relativement complexes des monothéismes. Donc, comprenez simplement, le spiritisme est une doctrine pratique qui s'intègre dans un phénomène plus global qui s'appelle le spiritualisme. Alors voyons maintenant le plan de l'émission qui va se découper en 5 parties. Tout d'abord, nous parlerons donc de l'histoire du spiritisme, des origines, les premiers praticiens, le développement du terme spiritisme, les grands chamboulements, si l'on peut dire, avec les textes d'Alan Kardec, puis l'apothéose ou l'âge d'or du spiritisme, son déclin et puis sa résurgence dans une époque plus moderne. Ensuite, dans une deuxième partie, on va largement élargir le sujet avec les questions qui concernent l'au-delà, mais avant l'invention du spiritisme, et notamment les tentatives ou les pratiques de communication avec l'au-delà, avec le phénomène de nécromancie, depuis les temps premiers donc de la préhistoire, proto-histoire, mais également passant de l'Antiquité, romaine, grecque, égyptienne, etc., en passant par le monde celtique également. Puis ensuite, nous aborderons la question du contact avec les morts, ou du moins de l'au-delà, dans le christianisme, qui va provoquer un chamboulement dans la pensée de cette communication avec l'au-delà, puis nous étudierons donc les phénomènes au Moyen-Âge, puis jusqu'à l'époque de la Renaissance, avant l'invention des méthodes du spiritisme. Ce qui nous amènera à la troisième partie, les méthodes concrètes du spiritisme, donc les méthodes de communication avec l'au-delà, et je vous rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas de dire si ces méthodes sont valables ou si c'est simplement du charlatanisme, le but étant simplement d'analyser les différentes méthodologies qui sont employées couramment dans les méthodes dites du spiritisme. En quatrième partie, nous entrerons dans une phase de témoignage et d'étude. Donc nous parlerons de certains personnages qui se sont intéressés à la question du spiritisme. Nous étudierons certains des phénomènes, voir ce que l'on peut dire sur ces éléments. Donc des études à caractère scientifique qui ont tenté de s'intéresser au phénomène spirit. Puis je vous livrerai également dans cette quatrième partie un témoignage personnel, car comme vous le savez, moi-même, j'ai longuement pratiqué le spiritisme pendant à peu près 3 ou 4 années, à peu près vers l'âge de mes 20 ans. J'ai pratiqué de nombreuses fois le spiritisme. Alors je vous livrerai à l'état mon témoignage par rapport à cette pratique et les conclusions que j'ai éventuellement à titre personnel pu en tirer. Alors ceci n'est pas exhaustif puisque, comme vous le savez, un témoignage personnel n'a de valeur que celui qu'on lui accorde, donc il ne s'agira pas que vous me fassiez confiance sur mon témoignage, mais simplement de d'illustrer par rapport à un vécu personnel sur les raisonnements que je vous donnerai dans la cinquième partie, à savoir la conclusion et les avis divers. Donc la dernière partie aura pour but de montrer éventuellement les dangers du spiritisme, que le phénomène soit réel ou imaginaire, hein, bien sûr, puis je vous livrerai également le point de vue de certains auteurs, à savoir notamment René Guénon, qui a été un critique assidu du spiritisme, mais également de Stanislas de Guaita, qui l'a critiqué, mais d'une autre façon. Et je terminerai avec ma conclusion personnelle sur cette question. Alors commençons directement avec la première partie, tout d'abord le prélude au spiritisme, puis ensuite l'épisode rocambolesque, si l'on peut dire, des Sir Fox en 1847, ensuite 1857, 10 ans plus tard, avec l'arrivée sur le terrain d'Alan Kardec, celui qui, je vous le rappelle, va inventer le terme du spiritisme et écrire de nombreux ouvrages qui forment ce qu'on pourrait appeler le livre saint un petit peu du spiritisme. Ensuite, nous explorons un petit peu certains personnages, donc des spirites célèbres, dont vous allez, j'imagine, pour certains d'entre eux, connaître les noms. Nous aborderons ensuite l'histoire progressive du spiritisme jusqu'à son apogée et son déclin, donc le déclin qui commence à partir de 1925, puisque de nombreuses personnes en Europe étaient attirées, ou du moins pratiquaient le spiritisme dans la fin du 19e et le début du 20e siècle. Puis ensuite, nous ferons un petit bilan du spiritisme à l'heure actuelle, qui a vécu une véritable renaissance, si l'on peut dire. Alors, tout d'abord, en prélude au spiritisme, il nous faut aborder certains personnages, notamment deux, à savoir Emmanuel Swedenborg ainsi que Franz Anton Mesmer, l'inventeur du mesmérisme. Alors, comme nous l'avons présenté un petit peu en introduction, les phénomènes de communication avec l'au-delà, ou par extension avec les morts, existent depuis, pourrait-on dire, aussi loin que l'humanité. Depuis que l'homme s'est intéressé au principe du rite funéraire, à l'enterrement des morts, et donc avec le culte des anciens qu'on va retrouver dans les traditions animistes, les gens se sont posé des questions par rapport au monde de l'au-delà et ont tenté d'entrer en communication avec les disparus. Alors cela, bien sûr, fait intégrer la notion de soit, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, l'immortalité de l'âme, ou du moins une subsistance, ou du moins une vie d'après. Alors, ces personnages n'ont pas pratiqué le spiritisme en tant que tel. Néanmoins, Emmanuel Swedenborg, dans son cas, pensait qu'il était possible d'entrer en communication avec l'au-delà et a tenté de le codifier. L'objectif était d'entrer en communication avec les défunts dans le but d'obtenir des réponses sur les éléments qui concernent la vie d'après. Son but était simplement de dire, vu que des personnes sont mortes, elles ont connaissance de ce qui se passe au-delà du voile du mystère, et donc s'il existe des méthodologies pour pouvoir entrer en communication avec elles, cela permettra d'avoir des réponses, ou du moins d'anticiper ce qui se passe dans l'au-delà. Et donc d'avoir également des réponses par rapport au phénomène de ce qu'on pourrait appeler le plan divin, ou le plan des idées, ou tout ce qui se passe, du moins, dans la métaphysique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les grands inconnus de l'existence humaine qui dépassent le cadre physique. Alors ce sera l'un des penseurs qui va engendrer le phénomène de questionnement du spiritisme. Mais encore une fois, je vous rappelle que Emmanuel Swedenborg n'a, à titre personnel, pas pratiqué de méthode spirit telle que celle que l'on va décrire par la suite. Ensuite, personnage essentiel qui n'a pas non plus pratiqué le spiritisme, mais qui va donner l'un des éléments fondateurs de la pratique ultérieure, c'est bien sûr Mesmer. Alors Mesmer, qui a vécu donc à la fin du XVIIIe siècle, va inventer un concept qu'on appelle aujourd'hui le mesmérisme, ou si vous préférez, le magnétisme animal. Dans sa pensée, il existait une sorte de fluide magnétique qui se trouvait aussi bien dans les hommes, dans les plantes, dans les minéraux, dans tous les corps vivants mais également immobiles, et donc l'humain, avec sa substance métaphysique, qu'on pourrait appeler l'âme, l'esprit ou tout ce que vous voulez, on va tenter de détailler un petit peu tout ça par la suite, pouvait, via cette force invisible, entrer en résonance avec les autres forces invisibles des autres corps, des autres éléments, etc. Tout ça. Donc, dans la pensée de Mesmer, via le fluide magnétique personnel, l'on pouvait interagir avec le fluide magnétique d'un autre individu. Et cela avait par exemple pour but de le soigner, d'améliorer une pathologie, de répondre à certains troubles, mais également de pouvoir amener à la suggestion ou plus tard au phénomène connu de l'hypnose. Alors, Mesmer est celui qui indirectement va inventer tout le mécanisme actuel qu'on en appelle l'hypnose. Alors, Mesmer sera considéré par un charlatan, par certains de ses contemporains, sera considéré par un génie, par d'autres de ses contemporains. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, Mesmer est considéré comme un manipulateur et un charlatan. Néanmoins, les concepts de Mesmer seront réutilisés pour créer l'hypnose. Donc, je ne porterai pas de jugement sur le personnage à titre personnel, je vous laisse votre libre arbitre sur la question. Retenons juste pour le moment que Anton Mesmer sera à la base de la fondation de l'hypnose et va développer le concept donc du magnétisme animal ou du fluide qui peut interagir entre les corps. Donc, il va, d'une certaine façon, établir les bases du phénomène de médiumité qui sera fondamental dans la pratique ultérieure du spiritisme. Alors, ces personnages vont interagir avec l'émergence d'un nouveau courant de pensée qui s'appelle donc le spiritualisme. Alors, le spiritualisme va naître dans le monde principalement anglo-saxon, en Angleterre, puis aura un grand succès par la suite aux États-Unis. Il va arriver un petit peu en France, mais d'une façon un petit peu plus légère, si l'on peut dire. Alors, qu'est-ce que le spiritualisme relativement simplement? Alors, le spiritualisme se place dans une croyance déiste, c'est-à-dire qu'il croit en un phénomène divin, on pourrait dire par simplification un dieu, mais bien que ce soit un petit peu plus global, cela pourrait s'inclure un petit peu dans les pensées de Spinoza, c'est-à-dire une pensée panthéiste, une sorte de grand tout cosmique. Le déisme croit en l'existence d'une substance ou d'un être divin, mais pas forcément sous la forme du monothéisme chrétien, musulman ou juif, qui se placent, eux, dans une position théiste, c'est-à-dire avec un dieu révélé, avec la révélation de Mahomet, de Jésus, etc., ou de Moïse, encore une fois. Donc, le déisme croit simplement en un principe divin et avec des sortes de lois cosmiques. Donc, le spiritualisme s'inclut dans cette doctrine en considérant qu'il y a un ordre cosmique, une sorte de substance divine qui existe, et que le but étant individuellement de se mettre en résonance avec cette substance divine pour accéder à un meilleur état de conscience et donc progresser sur une sorte d'échelle d'initiation métaphysique, encore une fois. Donc le spiritualisme est une sorte de nouvelle religion revisitée qui a pour but de se rapprocher des entités de l'au-delà dans le but d'acquérir les secrets du divin et donc d'obtenir des avantages pour le moment où on passerait dans la vie d'après. Donc cela aura un certain succès et va rebondir encore une fois sur les pensées de Mesmer avec cette idée du fluide, d'une énergie qui serait présente aussi bien dans l'homme que dans le monde de l'au-delà et donc permettrait une connexion entre le monde physique et le monde invisible qu'il y aurait une connexion possible entre le monde visible et le monde invisible via ce fameux fluide magnétique. Alors c'est dans ce courant de pensée que les premières tentatives de communication avec l'au-delà vont avoir lieu, toujours en utilisant ce fameux fluide magnétique, si l'on veut. Et on va arriver à l'épisode bien connu, celui des Sir Fox, qui est le premier élément fondateur, si l'on peut dire, du spiritisme, bien que le terme n'existe pas encore. C'est l'histoire de Léa, Margaret et Kate Fox, trois jeunes femmes qui vivaient dans l'état de New York, dans la ville d'Idlesville. Alors, encore une fois, c'est l'élément fondateur, le premier grand événement, peut-on dire, de pratique de spiritisme. En réalité, il y a déjà eu des personnes, préalablement, avant les Sir Fox, qui ont tenté d'entrer en communication avec les morts. Mais, du moins, leur pratique à elles va devenir la référence dans la méthodologie future du spiritisme, et sera reprise, encore une fois, par la suite, et notamment par Allan Kardec. Alors, comment se passe un petit peu l'histoire des Sir Fox ? Eh bien, les trois jeunes femmes vont tenter elles-mêmes, soit par amusement, soit par une véritable volonté, c'est difficile à dire, d'entrer en communication avec un esprit mort. Il faut savoir que d'après la légende locale, il était dit que la maison dans lequel elles vivaient était hantée par un ancien criminel ou quelque chose comme ça. Elles vont donc se mettre à trois autour d'une table, et tenter d'appeler cette entité afin qu'elle se manifeste. Et c'est là qu'on va entrer dans le phénomène dit des tables tournantes, où la table, si vous préférez, va commencer à se lever d'un côté pour frapper avec l'un des pieds de table ou faire des craquements. L'esprit, en l'occurrence, va répondre, encore une fois d'après la légende, je ne saurais vous dire encore une fois si le phénomène est réel ou imaginaire, mais dans tous les cas, ce sera un événement qui sera raconté et qui aura un grand succès à l'époque. Alors, l'esprit, en l'occurrence, se présentait sous le nom de Monsieur Splitfood, qui veut dire Monsieur Pied Fourchu, ou plus tard, il sera identifié comme étant un Charles B. Rosma, qui était un colporteur, lui-même assassin, et qui serait mort dans la maison. Donc, il y avait en effet une cave dans la demeure, et les Sir Fox vont faire des fouilles, enfin, avec leur père, puisque leur père va les rejoindre dans cette entreprise, et va participer également aux différentes séances de spiritisme, qui seront nombreuses, hein, bien sûr. Et donc ils vont faire des fouilles dans la cave et vont retrouver des ossements, en l'occurrence, ce qui aurait tendance à attester, en effet, qu'une personne était bel et bien morte dans la demeure. Alors, la réputation des Sir Fox va grandir, cela va attirer les notables de la ville, si l'on peut dire, qui vont venir assister aux fameuses séances de table tournante. Et donc, les Sir Fox vont se présenter dans différents rassemblements et vont faire état de pratiques de spiritisme en faisant participer d'autres personnes. Donc, il y aura des centaines de représentations par les Sir Fox qui vont présenter cette méthodologie des tables tournantes afin d'appeler les esprits. Donc, le premier esprit, encore une fois, Charles B. Rosma, se manifestera dans la maison des Sir Fox, mais il y aura d'autres esprits qui seront incantés, et notamment des personnages célèbres, et notamment, soi-disant Benjamin Franklin, qui serait apparu lors de ces séances de spiritisme. Alors, les Sir Fox auront encore une fois un grand succès, leur réputation va largement transiter au-delà de leur village, hein, si l'on peut dire, et elles vont même se faire des représentations dans la ville de New York, qui auront un franc succès. Et cela va durer pendant des dizaines d'années, encore une fois. Alors, il faut savoir que les Sir Fox, longtemps plus tard, en 1888, vont revenir sur leur déclaration. Enfin, l'une des sœurs va dire que tout ceci était un canular et qu'il ne s'était en réalité rien passé et que c'était en fait avec une certaine habileté qu'elle faisait craquer leurs doigts de pied afin de provoquer des bruits qui auraient passé pour les craquements de la table et donc tout ceci ne serait qu'une supercherie. Notons quand même que juste après ces déclarations de canular, elle va revenir sur ses déclarations disant que les phénomènes étaient authentiques dans leur globalité, sauf la première fois, en l'occurrence. Alors, encore une fois, je vous laisse libre d'interprétation sur toutes ces allégations. Retenons simplement que le spiritisme des Sir Fox sera l'élément fondateur qui va engendrer le phénomène des tables tournantes. Alors, la réputation des Sir Fox a un grand succès, encore une fois, et au bout de quelques années, 5 ans seulement, il y aura plus de 3 millions de personnes qui sont adeptes du spiritisme aux États-Unis et en Angleterre. Alors, vous voyez, c'est une véritable vocation, cela attire les notables, c'est dans les milieux, alors ça c'est intéressant parce que le phénomène du spiritisme va attirer principalement les milieux cultivés. Ce n'est pas tellement le prolétariat, hein, pour caricature un petit peu, qui s'intéresse au spiritisme, c'est plutôt les notables, les aristocrates, les personnes de la bonne société qui vont s'intéresser au phénomène du spiritisme et cela va entrer un petit peu dans une sorte de... d'époque des réunions mondaines un petit peu où les gens se réunissent pour discuter, parler du monde, mais également faire une séance de spiritisme. Cela était une sorte d'occupation, de jeu ludique un petit peu, mais qui avait un franc succès. Alors, 3 millions d'adeptes en seulement 5 ans, vous comprenez bien que cela a touché largement l'Europe également, et notamment la France. Et c'est là qu'un autre personnage va entrer en scène, celui d'Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard de Rival, qui a vécu entre 1804 et 1869. Alors tout d'abord, il faut voir un petit peu le parcours d'Allan Kardec. Ce dernier a subi une bonne éducation, il était instruit dans de nombreux domaines et de son véritable métier sera pédagogue, ou si vous préférez, il sera spécialiste dans les qualités de l'instruction et de transmission des connaissances, et va écrire d'ailleurs plusieurs traités sur ce sujet et aura même une certaine renommée dans le domaine. Donc nous sommes face à un personnage qui a déjà une certaine réputation, qui a une bonne instruction et qui surtout est habile dans les méthodes de communication encore une fois. Alors, il sera notamment sollicité, ce n'est pas lui qui va s'intéresser par lui-même, si l'on peut dire, au phénomène des tables tournantes et du spiritisme, c'est bien d'autres personnes qui vont faire appel à lui afin justement d'avoir une opinion critique par rapport au phénomène des tables tournantes et de tenter d'expliquer comment fonctionne le phénomène et comment se passe un petit peu toute cette méthodologie. Alors, c'est en 1857 que Allan Kardec sera mis en présence des premières séances de spiritisme auxquelles il participera. Alors, il va pratiquer de nombreuses fois pendant plusieurs années, pour être exact, 2 années avant d'écrire son premier livre. Et ce qui est important, c'est que Allan Kardec ne s'est jamais présenté comme le fondateur du spiritisme, comme l'auteur des livres qu'il va écrire, mais comme le transmetteur. Du moins, c'est son affirmation, encore une fois, on peut le croire ou ne pas le croire. Il se présente comme celui qui a collecté les informations reçues lors de ses séances de spiritisme et va les transmettre dans un livre afin de les faire connaître. Donc, c'est en 1857 qu'il va écrire son premier livre sur le spiritisme, à savoir le Livre des Esprits. Alors, ce texte sera suivi de nombreux autres dans le but d'expliquer, de rentrer dans les détails, si on veut, de la pratique spirite, mais également de toutes ces soi-disant révélations sur le monde de l'au-delà, des hiérarchies célestes et tout un tas de choses. Donc, 5 livres fondateurs pour le spiritisme. Notons également qu'il va fonder une revue, la Revue Spirit, qui est un magazine et qui existe encore de nos jours et qui est toujours publié actuellement et qui tente de poursuivre les travaux d'Allan Kardec, de faire état des témoignages, des diverses révélations ou autres, ou des méthodes spirit qui existent depuis l'époque d'Allan Kardec jusqu'à nos jours. Alors, il faut noter que de nombreux scientifiques participeront à cette revue à différentes époques et vont écrire de façon critique, hein, bien sûr, sur le spiritisme dans le but de prouver que le phénomène existe ou de tenter d'analyser le fonctionnement sur un point de vue physique et métaphysique du phénomène. Alors, Allan Kardec va écrire donc 5 livres, le Livre des Esprits en 57, ensuite le Livre des Médiums en 61, l'Évangile selon le Spiritisme en 1864, le Ciel et l'Enfer en 1865 et la Genèse selon le Spiritisme en 1868. Alors, le but de tous ces ouvrages est de présenter, encore une fois, je vous l'ai dit, globalement, le phénomène du spiritisme, la méthodologie et toutes les soi-disant révélations qui viennent du monde des esprits. Et on peut présenter la pensée d'Allan Kardec, on peut présenter la doctrine spirite, comme on va l'appeler, en quelques mots. Alors, doctrine spirite, pourquoi ? Parce que les livres d'Allan Kardec font figure de livres fondateurs et vont établir une doctrine. Comme nous l'avons vu, le spiritisme est avant tout une pratique, une méthodologie. L'adepte s'appelle le spirit et tout ceci s'inclut dans une religion plus globale qu'on pourrait appeler le courant de pensée du spiritualisme. Et Allan Kardec va tenter volontairement ou involontairement d'établir une doctrine, de la même façon que l'on peut parler de doctrine musulmane, de doctrine chrétienne ou de doctrine de différentes religions, le spiritisme possède ses livres saints et c'est ceux d'Allan Kardec en l'occurrence. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces livres ? Tout d'abord, l'objet de la pratique du spiritisme est l'enseignement, ou du moins une transmission de connaissances, toujours dans cette idée de pédagogue, hein, qu'auraient les esprits sur les humains. Donc le but est d'entrer en contact avec l'au-delà dans le but de recevoir un enseignement, des instructions sur ce qui se passe dans l'au-delà et au sens plus large de tout ce qui se passe dans ce monde métaphysique invisible ou éventuellement du divin. Puisque la doctrine spirite s'inclut tout à fait dans une démarche monothéiste, dans l'existence d'un dieu, mais d'un dieu pas au sens chrétien, mais au sens déiste, avec une sorte de grand tout cosmique. Et donc, dans cet univers divin, les esprits auraient donc des informations et permettraient donc de les donner aux hommes via une méthodologie, encore une fois, pour entrer en contact avec eux. Donc, c'est également les bases de l'art médiumique, donc des qualités nécessaires pour entrer en contact avec ces esprits. Alors, revenons un petit peu en arrière, nous avons vu quelques années plus tôt, donc à la fin du XVIIIe siècle, que Anton Mesmer a développé le concept du mesmérisme, donc du fluide magnétique entre les différents corps, et également les bases fondatrices de l'hypnose. Donc, d'après les enseignements d'Alan Kardec, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un médium, une personne qui a des qualités pour contrôler, gérer et manipuler ce fluide, ce fameux magnétisme animal, et donc c'est via ce fluide qu'il peut établir le pont de communication au-delà du voile du mystère, et entrer donc en communication avec un esprit. Le médium, si vous préférez, sert de canal, de lien de connexion entre ce monde et le monde de l'au-delà. Ensuite, c'est le concept va créer Alan Kardec, du périsprit, ou du corps énergétique. Alors, pour schématiser un petit peu, le périsprit serait une sorte d'enveloppe, une sorte de double de notre corps physique. Donc, nous avons notre enveloppe physique, mais au-delà, dans un monde invisible, nous aurions une sorte de double, une sorte de corps subtil que Alan Kardec appelle le périsprit et qui serait le véhicule de l'âme. Donc, en gros, le périsprit serait le reflet, l'image, le miroir, le double de notre corps physique, mais dans l'au-delà, si vous préférez. Et donc, le fluide magnétique n'aurait pas attrait spécifiquement sur le corps physique, mais aurait attrait avec le périsprit. Donc, le médium travaille avec son périsprit, son corps subtil, dans le but d'entrer en contact avec l'au-delà. En fait, le périsprit se trouve lui-même déjà dans l'au-delà. Donc, de ce fait, nous autres, en tant qu'individus, aurions un pied dans le monde matériel via notre corps et un pied dans l'au-delà via le périsprit. Alors, le concept que crée Alan Kardec n'est en fait pas totalement novateur, puisque la pensée d'un corps subtil, d'un double, va se retrouver dans de nombreuses traditions, notamment en Égypte antique, en Grèce, dans les courants gnostiques, hermétiques, etc. On pourrait dire que la notion du périsprit est une réactualisation de concepts qui existaient déjà préalablement, bien sûr. Alors, autre chose dans la doctrine spirit, on va noter l'objectif. Quel est l'objectif du spiritisme? Eh bien, c'est de créer un trait d'union entre la science et la religion, ce qu'on appelle, encore une fois, la doctrine plus globale du spiritualisme. Et l'objectif concret, c'est l'amélioration de l'homme. La plupart des religions ne s'intéressent pas, sur un premier plan du moins, à la notion de la science. Et de l'autre côté, la science en elle-même ne s'intéresse pas spécifiquement aux religions. Eh bien, dans la doctrine spirit, il y a une tentative, si l'on peut dire, de relier les deux. Alors, tentative ratée ou réussie, hein, encore une fois, ça je vous laisse juge de vos opinions, mais le but étant d'établir une sorte de méthodologie scientifique dans le but d'entrer en contact avec le métaphysique, donc avec ce qui a trait avec la religion. Donc, une méthodologie scientifique pour comprendre le métaphysique, ce qui n'a pas trait à la science. Voilà. Et bien sûr, l'objectif étant l'amélioration de l'homme, puisque comme on l'a vu, l'objectif étant d'entrer en communication avec l'au-delà et donc de retirer des enseignements sur ce monde subtil, ce monde métaphysique et donc les secrets du divin qui doivent être acquis par les hommes bien vivants dans le but de préparer la vie d'après. Alors, comme on l'a vu aussi, c'est une posture déiste avec la croyance en la réincarnation. Puisque s'il y a nous autres corps physiques, nous mourrons et qu'après il y a subsistance de l'esprit dans un au-delà, eh bien, dans la doctrine spirit, les esprits peuvent se réincarner perpétuellement sur Terre, revenir, et donc, etc., ce qui explique encore une fois le fait de leur subsistance. Ils ne vont pas définitivement dans un paradis ou un enfer, ils sont dans une sorte de monde de l'au-delà, et peuvent éventuellement revenir sur Terre via le phénomène de réincarnation. Une autre posture très importante de la doctrine spirit, c'est la notion de loi divine. L'objectif des spirites, du moins dans la pensée de Kardec, est de retirer, via ses contacts avec les esprits, les enseignements de la loi divine, une sorte de loi universelle qui régit l'univers et qui est inviolable, si l'on peut dire. Et donc, l'objectif de l'individu, du spirit, de l'adepte, est de se mettre en conformité avec ces lois divines dans le but de, comment dire, dans le but de répondre et se mettre en conformité avec ces lois divines, permet d'obtenir une sorte de meilleur état dans la vie d'après et de ne pas être condamné au phénomène de réincarnation. Le but étant, encore une fois, de s'émanciper du cycle de la réincarnation pour atteindre une sorte de perpétuelle félicité dans la vie d'après, dans un monde plus sublime et plus subtil, dans la pensée de la doctrine spirit. Donc, cette notion, encore une fois, de loi divine n'est pas absente des autres religions. On va retrouver une notion de loi divine dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, ou encore une fois dans les traditions hindoues et également bouddhistes. Donc cela n'est pas spécifique à la doctrine spirit, si ce n'est que les lois divines sont un petit peu différentes dans les livres d'Allan Kardec de ce qui existait préalablement. Et là, on va arriver à un élément fondamental. La doctrine spirit se place pour ses adeptes comme la troisième révélation. Alors, je vous rappelle que nous sommes, le spiritisme s'invente dans un monde occidental, dans un monde qu'on pourrait qualifier de judéo-chrétien. Donc, dans cette pensée, il y a eu de ce fait la première révélation, celle du judaïsme, avec la révélation de Moïse sur le mont Sinaï. Ensuite, il y a la deuxième révélation, celle du christianisme, avec Jésus, incarnation de Dieu sur terre, et donc qui apporte la révélation, le rachat des péchés de l'humanité, etc., et qui ouvre les portes au salut, et donc au paradis pour les hommes. Eh bien, pour les adeptes du spiritisme, les révélations de ces esprits forment une sorte de troisième révélation après celle de Moïse et celle de Jésus, qui offre donc la dernière clé de réponse pour obtenir le salut en se mettant en conformité avec ces lois divines. Donc, les adeptes du spiritisme considèrent que la doctrine spirit est une sorte de nouvel évangile, de nouvelle révélation divine, et qui va donc supplanter les anciennes religions du judaïsme et du christianisme pour entrer dans un nouvel ère, celui de la troisième religion, qui est en l'occurrence le spiritualisme avec la doctrine spirit. Donc ensuite, comme je vous l'avais précisé préalablement, c'est bien Allan Kardec qui va inventer le terme du spiritisme. C'est à partir de lui réellement que le spiritisme va se codifier, si l'on peut dire. Il y a donc maintenant la doctrine spirit, une sorte de manuel de fonctionnement, de dogme sacro-sacré, si l'on peut dire, une sorte de nouvelle religion pratique qui s'intègre dans le spiritualisme. Cela va permettre de toucher de nombreuses personnes, et notamment des érudits. À savoir, par exemple, que Napoléon III, l'empereur des Français, va lui-même demander à rencontrer Allan Kardec, puisque intéressé par ce phénomène. Alors, nous avons donc Allan Kardec qui est le fondateur de la doctrine spirit, mais tout ceci reposant également sur le concept de fluide magnétique inventé par Anton Mesmer et ce qui aboutit au principe de médiumité avec l'éveil du périsprit, de ce corps fluidique encore une fois, qui permet de servir donc de canal, de vaisseau si l'on peut dire, entre le monde de l'au-delà et le monde physique. Voyons maintenant quelques personnages célèbres qui se sont adonnés au spiritisme, et ceci va peut-être vous surprendre dans certains cas. Alors nous avons tout d'abord Andrew Jackson Davis. Alors celui-ci est intéressant parce qu'il s'est intéressé au spiritisme préalablement à Allan Kardec, si l'on peut dire, et sera l'auteur de livres en état de transe. C'est-à-dire que Andrew Jackson Davis n'avait lui-même pas reçu une éducation scientifique, n'était pas diplômé, si l'on peut dire, dans certaines matières, mais néanmoins il va dicter à haute voix des textes intégraux qui seront copiés donc par des scribes qui sont à côté de lui, et ces textes ont une véritable valeur scientifique en l'occurrence, ce qui pose bien sûr des questions sur les compétences et les connaissances d'Andrew Jackson Davis. Donc un témoignage relativement intéressant pour étudier le phénomène de transmystique. Donc il s'agit bien d'une communication avec l'au-delà, même si Andrew Jackson n'utilise pas la méthodologie des tables tournantes. Il utilise ce qu'on appelle la psychographie, une autre méthodologie que nous étudierons par la suite. Ensuite, personnage tout à fait connu, à savoir Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique, bien sûr, bien connu, un physicien des plus réputés de son temps, et lui-même s'est intéressé au phénomène du spiritisme, a lui-même pratiqué, mais avec son esprit scientifique, bien sûr, il a tenté de créer une machine, un appareil, dans le but de pouvoir entrer directement en communication avec l'au-delà, et cette création s'appelle le nécrophone, ou l'équivalent du microphone, bien sûr, mais dans le but d'écouter, d'entendre les voix des êtres qui vivraient dans l'au-delà. Ensuite, nous trouverons de nombreux auteurs célèbres, notamment Victor Hugo, Théophile Gautier, Victorien Sardou, Alexandre Dumas, George Sand, Arthur Conan Doyle et de nombreux autres. On va retrouver également des personnages connus de l'époque, Jean-Baptiste André Godin, un industriel. On va retrouver d'autres scientifiques, comme bien sûr Camille Flammarion, célèbre astronome, William Crookes, dont nous allons reparler tout à l'heure, qui est un chimiste et un physicien, Alfred Russel Wallace, ou encore Charles Richer, d'autres scientifiques bien connus. On va retrouver des théosophes, donc Jacob Lorber, théosophien, mais qui, dans sa mégalomanie, se prétendait lui-même le scribe de Dieu. On va retrouver d'autres personnages, donc des occultistes, cette fois-ci, bien sûr, vous vous doutez bien. Alors, je n'en ai cité que deux, Aleister Crowley et la médium Eusapia Palladino, qui ont pratiqué de nombreuses séances de spiritisme. Et pour finir, dans la liste des personnages insolites, on va retrouver des politiciens français comme Robert Owen, Robert Owen n'est pas français, excusez-moi, mais également Abraham Lincoln, président des États-Unis, qui lui-même s'est adonné aux séances de spiritisme. Donc à ce stade, vous l'aurez bien compris, le spiritisme se retrouve absolument partout dans ce troisième tiers du 19e siècle. Néanmoins, les premières critiques vont également venir. Et cela va commencer bien sûr avec la rétractation des Sir Fox, comme nous l'avons vu, en 1888, mais qui sera encore une fois démentie par la suite. Notons quand même que d'autres recherches seront faites dans la maison où les Sir Fox avaient pratiqué leur première séance de table tournante, et de nombreux squelettes seront retrouvés dans la cave de la maison, ce qui, pour les adeptes du spiritisme, validait la théorie comme quoi il y avait bien des phénomènes de hantise et donc des contacts avec l'au-delà, mais évidemment, d'autres personnes de la communauté scientifique seront critiques en restant sur le premier témoignage de rétractation des Sir Fox. Alors, à cette époque, en Angleterre, dans l'époque victorienne, il y a des millions d'adeptes du spiritisme, et encore une fois, c'est une sorte d'élément que l'on retrouve dans toutes les réunions mondaines de la bonne société anglaise. Et cela se retrouve également sur tout le territoire français, où les adeptes se comptent par millions, et notamment dans toutes les personnes intéressées à la spiritualité ou éventuellement à l'occultisme. Bien que certains, comme nous le verrons en toute fin d'émission, seront très critiques de ce type de pratique. Pour ce qui est de la position de l'Église, eh bien c'est très délicat. Nous verrons quand nous étudierons les notions de contact avec l'au-delà dans les périodes précédant l'invention du spiritisme, que l'Église était de ce fait incompatible avec le concept même du spiritisme, mais à partir de 1917, il y aura une sorte de première condamnation, si l'on peut dire, où le Vatican interdit officiellement aux catholiques de pratiquer, ou de moins de participer, à des séances de spiritisme, toute communication avec l'au-delà étant foncièrement interdite dans la doctrine du christianisme. Notons que c'est également le cas dans le judaïsme et dans l'islam, qui condamnent toute pratique de communication avec l'au-delà. La principale critique ensuite du spiritisme, mais bien que la pratique soit toujours dans son âge d'or à cette époque, ce sera donc en 1923 où René Guénon, un spiritualiste particulièrement connu de renommée mondiale, va publier un livre, L'erreur spirit, critiquant allègrement les spirites, les adeptes du spiritisme, mais également Allan Kardec, le fondateur de la doctrine spirit. Donc nous reviendrons sur la pensée de René Guénon en cinquième partie de cette émission. Ensuite, deux ans plus tard, en 1925, on peut dire que le spiritisme a réellement atteint son apogée. À cette époque, il y a une sorte d'organisation qui tente de gérer, de codifier ou de réguler un petit peu les pratiques du spiritisme à travers le monde. Et cette organisation est dirigée par un personnage relativement connu, à savoir le créateur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, qui est le président de cette organisation. À la suite de l'année 1925, le spiritisme, ou du moins les adeptes du spiritisme, ne feront que décroître. Les critiques s'intensifient et le phénomène, on veut dire, est supplanté par d'autres, à savoir notamment les pratiques de la méditation, les pratiques diverses de la spiritualité, et on va dire que le phénomène lui-même du spiritisme va s'inclure dans tout le courant des sciences dites paranormales ou des phénomènes dits parapsychologiques. Donc le spiritisme commence à décroître, il intéresse moins de personnes et d'autres pratiques vont le supplanter, si l'on peut dire. Il y aura également à cette époque de nombreuses fraudes et impostures, parce que, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'est pas de mon ressort de vous dire si le spiritisme est réel ou un pur élément de charlatanisme, mais dans tous les cas, il est attesté qu'il y a eu de nombreux charlatans qui ont profité de la crédulité des gens pour inventer de fausses séances de spiritisme, de fausses communications avec l'au-delà, dans le but de s'enrichir. Et évidemment, ces fraudes ont apporté un discrédit sur la pratique plus globale du spiritisme dans son ensemble. Notons également que les courants rationalistes s'opposent au spiritualisme, la religion qui englobe le spiritisme, bien sûr, et dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc, tout le courant de pensée anglo-saxon du spiritualisme, de cette religion moderne déiste à courant spirituel, peut-on dire, sera largement critiqué dans une société de plus en plus sécularisée où la pensée athéiste devient progressivement majoritaire. Donc le spiritualisme s'enfonce dans la tourmente, mais c'est également le cas, précisons-le, des autres religions hein, qui subissent également les critiques de ces courants rationalistes et de ce phénomène global de sécularisation. Donc cela ne touche absolument pas que le spiritisme. Si on fait un petit bond dans le temps et qu'on arrive à l'époque moderne, on peut dire que globalement le spiritisme a commencé à ressusciter, si l'on veut, à partir des années 70. Alors probablement via la littérature et le cinéma, où certains films comme L'Exorciste et quelques autres ont fait la promotion un petit peu du spiritisme. Alors dans un aspect critique bien sûr, parce que le spiritisme n'a pas forcément bonne publicité au cinéma, mais néanmoins ça va attirer les jeunes. Alors, en Europe, le spiritisme persiste tout de même, hein, très minoritaire. Il y a un regain d'intérêt, comme je vous l'ai dit, dans les années 70, même si ça touche principalement les ados, on va dire. Le spiritisme devient un sujet classique de cinéma. On va retrouver des films modernes, Paranormal Activity, Ouija, L'Exorciste et autres. Et ça devient une sorte de jeu d'adolescent où les jeunes s'adonnent à une séance de spiritisme, le côté interdit, le côté dangereux, le côté un petit peu se faire peur, etc. Donc voilà, le principal public du spiritisme en France, principalement, ce sont des jeunes, des ados qui veulent s'adonner lors d'une soirée à une séance de spiritisme, encore une fois, pour se faire peur ou par simple curiosité. Hein. Donc ça devient quelque chose de plus ludique qu'une pratique spirituelle, peut-on dire. Alors, notons par contre que si le spiritisme a quasiment disparu en Europe, ce n'est pas le cas de l'Amérique du Sud. Alors très étrangement, notamment au Brésil, le spiritisme est quasiment une véritable religion. Hein. Il y a plus de 6 millions d'adeptes du spiritisme et plus de 20 millions de sympathisants. Allan Kardec est vu comme un personnage absolument essentiel. Ses livres ont un succès inimaginable et c'est un personnage essentiel de la culture du pays. Hein. Notons que des centres de spiritisme existent dans toutes les villes du Brésil et encore une fois, Allan Kardec est un des auteurs les plus lus au Brésil. Et les spirites se comptent encore une fois par millions. Hein. Donc l'Amérique du Sud verra également l'émergence de nombreux médiums, hein, notamment Chico Xavier, qui est particulièrement connu, qui sont des adeptes du spiritisme et qui font la promotion de cette méthodologie, mais également de cette religion au sens plus global, qui est le spiritualisme. Alors, dans l'époque actuelle, sur le plan scientifique, le spiritisme est considéré comme une manifestation de l'inconscient, donc entre dans la catégorie en fait de la psychologie ou de la psychiatrie éventuellement. La communauté scientifique ne reconnaît pas la pertinence du phénomène de spiritisme, mais l'inclut dans un phénomène psychologique, encore une fois, qui touche à l'inconscient, et tous les phénomènes et les manifestations du spiritisme seraient simplement des projections de notre inconscient qui provoqueraient les différents phénomènes de table tournante, de table Ouija ou encore de psychographie que nous étudierons par la suite. Nous en terminons maintenant avec la première partie sur l'histoire du spiritisme, relativement succincte, mais c'était nécessaire afin de pouvoir poursuivre l'émission et notamment s'intéresser à ce qui existe avant le spiritisme. Pour résumer rapidement, nous avons la doctrine spirit, une sorte de méthodologie avec la présentation des lois divines ou du fonctionnement des communications via le périsprit, encore une fois, ce sort de corps fluidique pour communiquer avec l'au-delà. Ceci basé en partie sur les travaux d'Anton Mesmer, sur le fluide magnétique ou le magnétisme animal, encore une fois, cette sorte d'énergie invisible qui serait partout et qui donc permet de relier les différents éléments de l'invisible avec nous autres et donc d'entrer en communication. Mais, en réalité, ce qu'on peut observer, c'est que le spiritisme est une sorte de tentative d'apporter certains éléments scientifiques, encore une fois, j'insiste sur le mot tentative, dans le but de créer une sorte de méthode logique pour communiquer avec l'au-delà. Ça, c'est ce qui caractérise le spiritisme, car en réalité, les tentatives de communication avec l'au-delà, ou du moins avec des entités de l'au-delà, existent depuis l'aube de l'humanité. Et cela va nous conduire à exhumer certains éléments, faire une sorte d'archéologie des croyances, si l'on peut dire, des pratiques anciennes, de la proto-histoire jusqu'au siècle des Lumières, tous les éléments qui précèdent l'invention du spiritisme, mais également le concept du magnétisme animal de Anton Mesmer. Donc commençons avec l'histoire des contacts avec l'au-delà. Nous commencerons tout d'abord avec un état de la croyance dans l'au-delà. Qu'est-ce que cela veut dire, croire en l'au-delà ? Ensuite, nous poursuivrons avec les premiers temps de la proto-histoire, à savoir les pratiques de l'animisme et du chamanisme, et les quelques éléments que l'on a pu exhumer de leurs différentes pratiques. Ensuite, nous continuerons avec les légendes de l'Antiquité, donc des traditions grecques, égyptiennes, mésopotamiennes, etc., afin de voir comment fonctionnait le contact avec l'au-delà. Puis nous poursuivrons avec la réforme fondamentale du christianisme et surtout le problème de l'âme, et donc l'incapacité, si l'on peut dire, de communication avec l'au-delà, ou du moins l'interdit de cette communication. Nous poursuivrons avec les différents éléments du Moyen-Âge, les différentes pratiques de contact avec l'au-delà lors du Moyen-Âge, et puis notamment l'émergence des nécromants, ces personnes qui se spécialisent justement dans le contact avec l'au-delà. Et puis nous terminerons avec la renaissance des mages, les moments où certains savants de l'occulte, hein, qu'on pourra nommer comme Agrippa, Paracelse et d'autres, vont tenter d'expliquer, ou du moins de présenter des méthodes de communication avec l'au-delà qui ne s'apparentent pas au spiritisme, mais qui ont néanmoins le même objectif. Tout d'abord, qu'est-ce que la croyance en l'au-delà ? Eh bien, c'est le postulat, et j'insiste sur le mot, c'est une croyance avant toute chose, qu'il existerait une vie après la vie, ou du moins une certaine notion de l'existence. Nous aurions, dans cet état de pensée, un corps, mais nous aurions également quelque chose d'autre, qu'on va appeler âme, esprit ou encore sous d'autres vocables. Or, lorsqu'il y a mort du corps physique, il y a subsistance de cette autre partie. Utilisons le mot de l'âme pour simplifier. Or, cette âme va quelque part. Eh bien, ce quelque part, on va le manifester sous le vocable générique de l'au-delà, celui qui est au-delà de notre monde visible, ou du moins de notre monde physique. Il est quasiment unanime de retrouver partout sur la planète, et toute civilisation confondue, la croyance en l'existence d'un au-delà, ou d'une existence au-delà de la mort. Alors, la genèse de cette croyance peut s'expliquer de différents aspects. Tout d'abord, par certaines observations du cycle des saisons. On s'aperçoit que la nature, les plantes, etc., tout va mourir périodiquement et revenir, se régénérer perpétuellement. D'où cela va engendrer notamment la croyance de la réincarnation, du fait que le corps meurt, l'âme s'en va, et puis l'âme peut revenir pour s'incarner dans un nouveau corps. Comme la nature qui est cyclique, l'humain et sa vie et sa mort, du moins, pourraient être cycliques. Donc c'est une croyance assez naturelle, un invariant que l'on va retrouver sur toute la planète. Il est également possible, à mettre dans la balance, le fait de la peur de la mort. Nous sommes condamnés à la mort, à la disparition physique, et cette peur peut engendrer un espoir, du moins matérialiser l'espoir d'une survivance au-delà, d'une sorte de possibilité qui existerait au-delà, dans l'objectif de survivre concrètement. Donc ceci est également un invariant qui peut toucher tous les humains, et donc se retrouve unanimement sur toute la planète. Mettons quand même en scène un élément important, qui est que toutes les civilisations de toutes les époques et de tous les continents ont cru, sous des notions différentes, je vous l'accorde, ont cru en l'existence d'une vie après la mort, et donc ont cru en l'existence d'un au-delà. Cela est valable pour toutes les civilisations à travers toutes les époques de l'humanité. Cela fait environ 200 ans que la société sécularisée a commencé à abandonner ce type de croyance progressivement. Mais cela est extrêmement récent, en l'occurrence. Donc, il ne faut pas, encore une fois, oublier le fait que la croyance en un au-delà était absolument universelle, fut encore 200 années, si l'on peut dire. Et encore, même dans nos sociétés modernes, il y a encore énormément de personnes qui acceptent toujours l'idée de la croyance d'un au-delà, et donc d'une subsistance après la mort. Alors, encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas ma mission de vous dire si cette croyance est légitime ou non légitime. Cela dépend, encore une fois, de la croyance personnelle, et c'est votre libre arbitre d'y croire ou de ne pas y croire. Histoire de faire état de transparence, à titre personnel, je crois en l'existence d'une vie après la mort et donc en l'existence d'un au-delà, mais cela est ma croyance personnelle. Il n'a donc pas d'influence sur l'exposé que je vous fais aujourd'hui. Encore une fois, c'est une démarche tout à fait personnelle que celle de la croyance ou de la non-croyance. Commençons maintenant notre voyage à travers le monde et le temps. Alors, pour commencer, les sociétés animistes, avec des rituels à tendance chamanisme, totémiste, fétichisme, etc., se retrouvaient partout dans l'époque de la proto-histoire. Ce que l'on peut remarquer, c'est que tous ces peuples avaient ou pratiquaient du moins ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Dans les premiers temps, dans de nombreux villages, il était de coutume d'enterrer les anciens, donc d'enterrer ses morts, dans la maison. Le but était de les garder à proximité, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il était de coutume de pratiquer des rituels dans le but de contacter les anciens disparus, dans le but de recevoir des conseils, des recommandations pour gérer sa vie quotidienne. Deuxièmement, on avait peur du courroux des anciens, et donc il fallait les respecter. On les gardait dans la maison pour leur offrir, pour leur faire des offrandes, leur offrir des bienfaits, dans le but de les contenter. Car si on ne le faisait pas, on s'exposait à leur vengeance et à leurs sévices. De ce fait, cela traduit également une communication avec l'au-delà. Cela suggère que l'on peut contacter les anciens pour leur demander des conseils, mais que ces mêmes anciens disparus peuvent également revenir pour des phénomènes de hantise et donc provoquer des problèmes. Donc on peut attester dans toutes les cultures animistes et chamaniques le fait d'une relation entre les vivants et le monde de l'au-delà. Donc il y a évidemment de ce fait la croyance d'une existence dans l'au-delà. Alors, les rites funéraires ont commencé à apparaître il y a environ 250-270 000 ans, ce qui peut commencer à attester d'une croyance en un au-delà et donc de ce fait des possibles communications avec l'au-delà. On voit également dans les grottes de l'art pariétal des représentations de forces animales et autres, ce qui pourrait traduire, mais je mets quand même ceci entre guillemets, que le monde de l'au-delà ne concerne pas ne concerne pas uniquement les hommes, mais que cet au-delà intègre bien d'autres choses, pas uniquement les défunts, mais également des esprits, des sortes d'esprits totémiques, animaux ou autres, ou divinités éventuellement bien sûr, et donc de ce fait les contacts avec l'au-delà ne se limitent pas au contact avec les morts, mais également avec toutes ces entités qui peuplent ce monde invisible qu'est l'au-delà. Nous ne nous attardons pas trop longtemps sur ces pratiques, juste pour établir, donc, notamment en s'intéressant aux travaux de Mircea Eliade, que nous retrouvons des mythes invariants sur toute la planète, de contact avec les défunts, notamment via le culte des ancêtres. Ensuite, on arrive aux pratiques de l'Antiquité, qui se retrouvent un petit peu plus codifiées. C'est notamment l'apparition concrète de ce qu'on va appeler la nécromancie, hein, qu'on va retrouver à peu près partout. Donc la nécromancie, c'est la tentative de communication avec les défunts, dans le but de connaître des secrets que possède ce défunt. Alors, dans les pratiques de l'Antiquité, on va en trouver un petit peu partout. On voit par exemple que chez les anciens suméro-acadiens, il y a bien sûr des sites funéraires où on contacte les anciens, donc on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait dans les sociétés précédentes, donc une communication avec le monde de l'au-delà et notamment avec les défunts dans le but de leur demander des conseils ou de ne pas provoquer leur courroux. On va retrouver une notion très importante dans les sociétés suméro-acadiennes, c'est le fait que toutes les maladies ou tous les tourments qui touchent la vie quotidienne sont l'œuvre de génies, d'entités ou de daemons, vous employez le vocable que vous préférez, qui vivent donc dans l'au-delà, par nature, et donc qui auraient un impact sur le monde physique et sur nos vies. Alors là, on va voir aussi la notion du fameux périsprit qu'on va retrouver chez les spirites, c'est-à-dire que les daemons ou les génies, par exemple, n'ont pas un impact directement sur notre corps physique, puisqu'ils sont eux-mêmes immatériels, mais auraient un impact sur notre corps subtil, notre corps invisible, notre âme, si vous préférez, ou notre esprit. Donc, ce monde de l'au-delà n'est pas peuplé que des morts, mais également de tout un tas d'autres entités, et cela commence à se codifier, notamment dans la société suméro-acadienne. Alors, citons quelques légendes, deux pratiques de nécromancie qui ont eu lieu pendant la période antique. Alors commençons tout d'abord avec la culture, ou du moins la mythologie des Hébreux, et l'épisode de la sorcière d'Endor. Alors la sorcière d'Endor, aucun rapport avec la planète Endor de Star Wars, hein, c'est bel et bien le nom d'un personnage qu'on va retrouver dans les textes bibliques. Alors pour vous poser un petit peu le contexte, il s'agit donc du roi Saül, le premier roi de la monarchie unifiée d'Israël, alors un roi mythique hein, qui n'a probablement pas existé historiquement, mais du moins nous sommes dans la légende qui atteste de pratiques nécromantiques dans ces sociétés. Alors, Saül est en difficulté puisque Dieu lui a retiré son soutien et son territoire est envahi par les troupes des Philistins. Alors, il était interdit dans la culture hébraïque de pratiquer justement la nécromancie, il était interdit d'entrer en contact avec les morts. Mais Saül va outrepasser cet interdit et va se rendre chez la sorcière d'Endor. Cette dernière va accéder à sa demande et va pratiquer un rituel donc de nécromancie dans le but que Saül puisse communiquer avec le grand patriarche hébraïque ou l'ancien juge, à savoir Samuel, donc personnage qui était mort depuis quelque temps. Donc Saül, via le rituel nécromantique, va apparaître du moins sous une forme ectoplasmique, hein, peut-on dire, et va pouvoir s'entretenir avec Saül et va d'ailleurs lui faire de nombreuses critiques, car bien sûr la nécromancie était interdite. Et de ce fait, cette communication ne sera pas vraiment bénéfique pour Saül. Mais on atteste encore une fois que dans le territoire cananéen et donc des Hébreux par extension, les pratiques de nécromancie existaient. Il existait des rituels pour entrer en communication avec les morts. Ensuite, dans le monde grec, nous allons retrouver la légende qui concerne Ulysse et Tirésias aux enfers, que l'on va retrouver dans le texte L'Odyssée, écrit par le poète Homère. Alors, comment se passe un petit peu cette histoire ? Ulysse, je vous rappelle, avait été condamné après l'épisode de la guerre de Troie, après l'épisode du cheval de Troie. Il a été condamné par le dieu Poséidon à errer sur les mers, etc., tout ça, et il cherche son chemin. Pour retrouver son chemin, il décide de se rendre, sous les conseils de la magicienne Circé, à la rencontre de Tirésias. Le problème est que Tirésias était mort, donc il était aux enfers. Donc, de ce fait, Ulysse va devoir pratiquer un rituel de nécromancie pour pouvoir contacter le sage, à savoir Tirésias. Donc, pour cela, il va accomplir un rituel de sang, il va sacrifier un animal et répandre son sang devant ce qu'on appelle une porte des enfers, une sorte de grotte à caractère ctonien. Une fois le sacrifice ayant eu lieu, les divers habitants de l'enfer vont commencer à s'amasser auprès de la grotte afin de laper le sang et donc d'obtenir du pouvoir, une sorte d'énergie, si on peut dire, afin de pouvoir communiquer. Ulysse, bien évidemment, doit s'armer d'un poignard afin d'éloigner les esprits mauvais, afin que le sage Tirésias puisse parvenir jusqu'au sang afin d'en ingérer pour pouvoir communiquer. Donc c'est une véritable lutte qui s'engage entre les esprits de l'au-delà et Ulysse. Finalement, Tirésias va réussir à boire un petit peu du sang et va pouvoir prodiguer des conseils à Ulysse son chemin, sur son périple qu'il va devoir accomplir pour retourner dans sa lointaine île d'Ithaque. Donc on voit ce qui est important, c'est qu'Homère va écrire ce texte donc de l'Odyssée à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui atteste encore une fois deux pratiques de nécromancie dans la culture grecque archaïque et qu'on va retrouver également en période classique et hellénistique par la suite. Mais c'est assez édifiant de remarquer la notion du rituel de sang. On sacrifie quelque chose de physique comme pour créer le pont d'une certaine façon avec le monde de l'au-delà et de l'invisible. Alors on va retrouver des pratiques nécromantiques également chez les Celtes, avec les Gallicenae. Alors les Gallicenae sont des druidesses de l'île de Sein. En fait, le terme druidesse n'est pas tellement adapté, ce sont plutôt des prêtresses en réalité. On va retrouver un épisode que nous rapportent les légendes, où Vercingétorix, donc grand héros de la guerre des Gaules, consulte les Gallicenae, afin de prendre des conseils auprès des âmes des héros morts dans les guerres précédentes, et la légende veut que ce soit justement après cet événement qu'il souleva la Gaule contre les forces de César et de l'Empire romain. Alors, dans la légende, donc les prêtresses de l'île de Sein avaient de grands pouvoirs et étaient capables justement d'entrer en communication via des sacrifices rituels, encore une fois, avec le monde des morts pour contacter les esprits des ancêtres. Donc on voit typiquement que dans la culture celtique, on a conserver le culte des ancêtres, mais également on pratique des actes de nécromancie dans le but d'établir le contact via, souvent des actes de sacrifice, en l'occurrence c'est unanime, on retrouve ça à peu près partout, ces sacrifices permettent d'établir le contact avec le monde de l'au-delà. La plupart des cultes de l'Antiquité pratiquent des rites semblables. On trouve la pratique de la nécromancie avec le sacrifice d'animaux ou d'humains ou diverses autres offrandes dans le but de créer le pont symbolique entre le monde du vivant et des morts. Alors, on retrouvait ça notamment en Égypte. Alors, bon, vous connaissez un petit peu, j'imagine, les rites funéraires égyptiens. Je vous ai proposé une academia sur le sujet il y a quelque temps. Mais pour faire simple, en Égypte antique, il y avait le mort, mais le mort avait un double énergétique, une sorte d'âme, si l'on peut dire, qu'on appelle le Ka, et ce Ka pouvait être contacté. Donc il n'était pas rare que les vivants s'adonnent à des pratiques de nécromancie avec sacrifice d'animaux, etc., dans le but d'entrer en communication avec le Ka d'un disparu. Le but étant que ce dernier, encore une fois, de la même façon que dans le spiritisme, donne des conseils, des recommandations sur les événements à venir, sur les choses à faire, ou etc., tout ça. Il existait également de nombreux rituels en Égypte antique pour se prémunir, se préserver des malveillances des défunts. Donc se préserver des malveillances que le mort aurait pu faire via son double énergétique, son Ka, qui pourrait venir hanter les vivants. C'est pour ça notamment que les tombeaux égyptiens étaient totalement fermés et hermétiques, dans le but que le Ka, le double éthérique, ne s'échappe pas de son tombeau. Alors on va retrouver des légendes de contact avec l'au-delà dans, comme je vous l'ai dit, toutes les pratiques animistes, et notamment dans le vaudou. Alors le vaudou, je vous rappelle, une spiritualité religion africaine qui s'est exportée en Amérique, alors notamment Haïti, Saint-Domingue, etc., mais également au Brésil et un petit peu partout, donc sous différentes formes. Le vaudou pratique habituellement ce qu'on appelle une sorte de transe mystique, donc via des cérémonies festives où il y a sacrifice de coqs, d'animaux, etc., tout ça, pour créer, encore une fois, je vous rappelle toujours le sacrifice où on verse le sang sur Terre dans le but de créer ce pont symbolique avec le monde de l'au-delà, ce qui nous renvoie au caractère des cultes ctoniens, justement. Donc, le chaman ou le prêtre vaudou va entrer dans une sorte d'état de transe, il va pratiquer ce qu'on appelle l'incorporation, c'est-à-dire qu'un esprit, une entité, va prendre contrôle de son corps via le sacrifice. Il y a eu, donc le lien symbolique a été créé, le canal peut s'établir, et l'entité va incorporer le corps du prêtre, c'est ce qu'on appelle un état de transe, et donc, sous cet état, le praticien du vaudou va pouvoir parler. Enfin, l'esprit va pouvoir parler via la bouche du prêtre et donner des conseils, des recommandations, des maléfices, enfin tout ce que vous voulez, suivant l'objectif de cette cérémonie. Alors on va retrouver la même chose hein, dans toutes les traditions chamaniques à travers le monde, que ce soit amérindienne, du sud et du nord, en Sibérie. On va retrouver des croyances ou des contacts avec l'au-delà au Japon, dans le shintoïsme, où les prêtres shinto vont via des rituels. Alors notons une précision, il n'y a pas de rituel de sacrifice de sang dans le shintoïsme, du moins dans le shintoïsme à partir du 15-16e siècle, il n'y a pas de sacrifice de sang. Ce sont d'autres offrandes qui ont lieu pour établir le contact. Mais l'idée reste globalement la même. Les prêtres shinto tentent d'entrer en communication. Alors, avec les habitants de l'au-delà, on ne peut pas parler spécifiquement du monde des morts, c'est les habitants de l'au-delà, que ce soit les kami, les yokai, ou tout un tas de créatures qui peuplent le monde invisible, dans le but, toujours pareil, d'avoir des recommandations, des conseils pour le destin de l'humanité. Alors voilà, comme vous l'aurez vu, c'est une croyance unanime que l'on retrouve absolument partout, dans toutes les sociétés, que l'on peut dire, que l'on peut qualifier de païenne à travers le temps et l'histoire. Mais voyons maintenant la difficulté que va poser le christianisme à partir de son émergence, mais pour être exact, pas tout à fait au moment de son émergence, c'est vraiment à partir du 2, 3 et 4e siècle que le christianisme va poser un problème théologique par rapport à ses anciennes croyances et aux communications avec l'au-delà. Alors, le christianisme apparaît sensiblement donc au 1er siècle de notre ère, ce qui est tout à fait logique. Mais néanmoins, comme vous le savez également aussi, le christianisme ne va pas se codifier en un jour. Cela va mettre un certain temps, le temps que la nouvelle religion s'organise. Sortant également d'une autre idée reçue, le christianisme n'est absolument pas la première religion, ou la première société du moins, à interdire la pratique des sciences occultes, et encore plus sur la nécromancie, bien sûr. La nécromancie étant considérée comme la pire des sciences occultes, puisqu'elle a trait habituellement au sacrifice humain et le contact avec le monde de l'au-delà. Alors, toutes les sociétés antiques pratiquaient le contact avec l'au-delà, parfois sous une forme nécromantique de sacrifice, etc. Tout ça, mais toutes les sociétés ne vont pas le condamner. On trouvera des condamnations dans la société des Hébreux, mais on trouvera également des condamnations dans la société romaine. Pourquoi ? Les motifs en sont différents. Sur le point de vue de la société des Hébreux, c'est avant tout pour une question théologique. Mais dans la société romaine, ce n'est pas pour un aspect théologique, c'est pour un aspect social. Le but de la magie et des sciences occultes était interdit parce qu'il pouvait troubler l'ordre public. C'est notamment le cas avec les tablettes de malédiction et tout un tas de choses, ce qui fait que la société romaine acceptait tout à fait l'usage des sciences occultes tant que cela ne posait aucun problème dans la vie courante de la société, peut-on dire. Donc ce n'est pas du tout une condamnation sur les mêmes motifs. Or, le christianisme reprend une paternité à la fois un petit peu de la société romaine, mais également de l'ancienne religion du judaïsme, et va se trouver un petit peu à cheval entre les deux. De ce fait, le christianisme va condamner toute pratique des sciences occultes, ce sera le cas notamment de la divination, mais également du contact avec l'au-delà. Mais d'où vient le problème théologique du christianisme ? Eh bien, c'est très simple en réalité. La doctrine du christianisme se fonde sur l'incorruptibilité de l'âme et sur la non-existence d'une sorte d'au-delà, si vous voulez. Dans la vision du christianisme, c'est très simple. Nous avons un corps, et quand ce corps va mourir, l'âme va se rendre soit en enfer, soit au paradis. C'est très simple. Évidemment, de ce fait, si l'âme se trouve au paradis ou en enfer, elle ne peut pas venir contacter les vivants. Et les vivants, de ce fait, ne peuvent pas contacter les âmes qui se trouvent en enfer ou au paradis. Du moins, ce n'est pas présenté comme ça dans le christianisme. De ce fait, la plupart des populations qui étaient de tradition païenne préalablement, qui se retrouvent christianisées, mais conservent néanmoins tout le vécu populaire des anciennes pratiques, si vous voulez. De ce fait, ils avaient pour habitude, notamment dans les pratiques des campagnes, de faire des offrandes aux anciens, de vénérer une sorte de culte des morts, et de se rendre dans un lieu sacré où il y avait des points de contact, si l'on peut dire, avec ces entités de l'au-delà. Et le christianisme était donc de ce fait en opposition théologique avec ces pratiques païennes. C'est ainsi que Saint Augustin mais également Tertullien vont trouver une réponse théologique à ce problème qui est très simple. À chaque fois qu'un individu entre en contact avec un mort, avec un défunt, ou du moins avec l'esprit d'un défunt, eh bien en réalité ce n'est pas le défunt qui communique, c'est le démon, ou un diable si vous préférez, qui prend l'apparence du défunt pour tourmenter, pour répandre de mauvaises informations aux croyants. Donc, sous-entendu, tous les contacts avec l'au-delà, avec les morts ou tout un tas d'autres entités n'existent pas, ce n'est que l'œuvre du démon par sa perfidie qui vient tourmenter les vivants en donnant de fausses révélations et en se faisant passer pour l'esprit des défunts. Donc, les contacts avec les morts n'existeraient pas, ce serait toujours l'œuvre du démon dans le but de tourmenter les chrétiens. Alors par la suite, cette fois-ci dans le catholicisme plus précisément, l'Église va trouver une tentative de réponse puisque n'arrivant pas à faire disparaître les anciennes pratiques, notamment païennes, surtout dans les milieux populaires, qui révéraient encore un culte aux ancêtres et qui tentaient encore de pratiquer la communication avec les défunts, ou du moins qui prétendaient avoir des contacts avec les défunts de l'au-delà, l'Église catholique, cette fois-ci, a trouvé une réponse à partir du XIIe siècle qui sera celle du purgatoire, une sorte de lieu d'attente, entre le paradis et l'enfer, un lieu où les morts sont une sorte de zone d'attente et de ce fait sont contactables. C'est un lieu où techniquement, une sorte d'au-delà, hein, si vous préférez, qui tente de répondre à ce problème théologique, offrant la possibilité d'un contact entre les vivants et les morts. Cependant, ce contact est littéralement interdit. Il ne faut pas déranger les morts et, encore une fois, toujours reprenant la pensée de saint Augustin, à chaque fois que l'on contacte un défunt, c'est en général un démon qui apparaît en prenant l'apparence de ce défunt. Et si jamais c'est une âme qui est au purgatoire, en l'occurrence, il ne faut pas la tourmenter, il ne faut pas la déranger, et la meilleure chose à faire serait de lui envoyer des prières, mais surtout pas de pratiquer des actes de nécromancie. Et cela nous amène justement au Moyen-Âge des nécromants. Alors, même si l'Église a largement combattu les pratiques de contact avec l'au-delà ou les phénomènes de nécromancie, cela n'a pas empêché les gens, dans leur tradition commune, si l'on peut dire, de pratiquer ce type de choses. Alors, tout d'abord, intéressons-nous à ceux que l'on peut appeler les nécromants, ou des sortes de sorciers qui tentent volontairement de contacter via des rituels, encore une fois, des entités de l'au-delà. Alors, nous sommes dans un monde chrétien, ils tentent de communiquer aussi bien avec les défunts, mais ça peut être également avec des démons ou avec des anges, dans une théologie chrétienne, comprenez-le. C'est ainsi qu'on va retrouver des textes, des grimoires si vous préférez, comme par exemple le Picatrix. Alors, le Picatrix est un grimoire qui a été écrit au XIe ou au XIIe siècle, mais lui-même basé préalablement sur un manuscrit qui se retrouvait en Al-Andalou et datant du 7 ou 8e siècle d'après la tradition. C'est une sorte de manuel théurgique et de nécromancie qui permet donc de donner, enfin qui donne donc des rituels via des pentacles, des cérémonies, avec des notions de sacrifice et autres, dans le but d'entrer en communication avec les défunts. Toujours pareil, hein, l'objectif de rentrer en communication avec les défunts, c'est d'apprendre des secrets concernant, enfin, que possède ce défunt, dans le but d'améliorer son destin, sa situation, ou tout ce que vous voulez. Et les pratiques théurgiques, c'est un petit peu différente, mais la finalité est proche. C'est un rituel de la même façon, avec ou sans sacrifice de sang, qui prend un vocable différent de goétie ou théurgie suivant les rituels, hein, bien sûr, qui a pour but d'entrer en communication, cette fois-ci, avec une entité, un démon, un ange, ou encore une fois, si c'est un mort, on parle de nécromancie, mais c'est absolument les mêmes rituels. Donc, toutes les pratiques du Moyen-Âge via le Picatrix et d'autres grimoires ont pour but d'établir un contact, la même chose que le spiritisme, si vous préférez, si ce n'est que c'est d'autres méthodes, dans le but de contacter l'au-delà. Plus simplement, dans les traditions populaires, il était de coutume que les personnes tentent également de contacter les défunts, sans pratiques qu'on pourrait qualifier de nécromantiques au sens sacrifice de sang, mais néanmoins qui peuvent s'apparenter à la nécromancie, puisqu'il est bien une tentative de contact avec les morts, pour connaître l'avenir, donc nécromancie au sens littéral du terme. Il était de coutume, quand on voulait consulter les anciens, d'aller dormir sur la tombe dans le but de recevoir des rêves prophétiques. Alors, cette fois-ci, on n'est pas sur une pratique qui touche le corps, puisque, par exemple, le spiritisme, on s'installe autour d'une table et on pratique une méthode dans le but d'entrer en communication. Eh bien, dans cette pratique du Moyen-Âge qui consistait à dormir sur les tombes des défunts, eh bien, on dormait, et donc c'est pendant le rêve que notre esprit aller contacter, pouvoir entrer en contact avec les autres esprits des défunts en l'occurrence. Donc vous voyez, l'idée c'est de dire que le corps, bah, lui, il se retrouve dans une réalité physique, mais quand on dort, l'esprit, lui, il n'est pas dans la réalité physique, il se trouve déjà dans l'au-delà. Donc on retrouve cette notion de canal, l'équivalent du périsprit hein, qu'on va retrouver dans la doctrine spirit. Cet esprit, au Moyen-Âge, qui dormait sur une tombe, pouvait entrer en contact avec le mort et donc en collecter des conseils. Alors, je vous passe tous les détails des phénomènes de revenance, de vampirisme, de lycanthropie et autres que l'on va retrouver au Moyen-Âge. Tout ça pour dire que les relations entre les morts et les vivants étaient tout à fait présentes dans la société du Moyen-Âge. Donc, le phénomène dit du spiritisme qui apparaît, lui, au 19e, n'aurait choqué, si l'on peut dire, absolument personne au Moyen-Âge, même s'il aurait été, bien sûr, interdit par les autorités ecclésiastiques. Alors ensuite, on continue un petit peu notre voyage avec la Renaissance, donc la Renaissance des mages, où on va avoir des personnages donc comme Paracelse, Agrippa, plus tard John Dee et quelques autres, qui vont se livrer à des rituels, donc des rituels théurgiques, dans le but de contacter des défunts. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple, hein, c'est sensiblement la même chose que ce qui se faisait préalablement, avec les codes, on va dire, de l'époque. Hein. Il y aura donc des rituels cérémoniques où on trace des cercles sur le sol, des sortes de talismans, des pentacles, pentagrammes, sceaux de Salomon et quelques autres, qui ont pour but en fait de créer une sorte d'espace sacré, un espace magique si l'on peut dire, qui va permettre de briser le voile entre le monde physique et le monde de l'au-delà. Donc le magicien va créer son rituel, il se trouve physiquement à l'intérieur de son cercle magique, mais le but étant que son esprit, son périsprit, comme le diraient les adeptes de la doctrine spirit, son périsprit ou son esprit va pouvoir lui visualiser le monde de l'au-delà et entrer en communication avec les entités qui y résident, que ce soit des morts, des anges, des démons, encore une fois suivant la volonté de l'adepte. Mais on voit en tout cas qu'à partir de la Renaissance, des personnages comme cité, c'est-à-dire Agrippa ou John Dee, vont tenter d'établir des contacts avec des entités ou des morts, afin, encore une fois, toujours la même chose, d'en obtenir des réponses, même si les objectifs de personnages comme John Dee ou Agrippa sont, qu'on pourrait qualifier de légèrement plus nobles, c'est-à-dire leur but n'était pas forcément d'obtenir des réponses immédiates sur leur situation présente, mais d'obtenir des révélations sur ce qui se passe dans l'au-delà, sur le monde divin et sur les concepts de création de notre univers, etc. D'où l'appellation de mage et pas de sorcier, contrairement aux nécromants du Moyen-Âge, etc. Tout ça. Bien sûr, vous l'aurez compris également, les deux cohabitent. Hein. Des sorciers qui pratiquent la nécromancie avec rituel de sang dans le but d'obtenir des réponses de là pour leur profit personnel cohabitent avec les rituels des mages qui font des opérations théurgiques dans le but de contacter des entités, pourrait-on dire angéliques ou du moins bénéfiques, dans le but d'obtenir des réponses théologiques sur le monde subtil ou le monde de l'au-delà. Hein. Les deux traditions cohabitent et vont se suivre tout au long des grès de l'histoire. Les méthodes de communication ou de tentatives de communication avec les entités ou les êtres de l'au-delà ou le défunt ont toujours existé depuis la nuit des temps. Ce n'est que ces fonctionnements, ces rituels, ces codes qui vont évoluer au cours du temps. On pourrait dire assez simplement que le spiritisme du 19e siècle est simplement la version moderne, si l'on peut dire, de la nécromancie qui se pratiquait aussi bien à la Renaissance qu'au Moyen-Âge que même dans les périodes antiques. Entre Saül qui consulte la sorcière d'Endor pour contacter le prophète Samuel, eh bien c'est la même chose qu'Alan Kardec qui contacte un esprit dans le but d'obtenir des réponses sur le fonctionnement de l'univers et autres. Alors, les motivations peuvent être différentes, le bien fondé d'une pratique peut être différent encore une fois, mais fondamentalement, l'idée globale reste la même, établir un pont entre le monde physique et le monde invisible via ce fluide magnétique qui ne prenait pas forcément le même nom suivant les différentes époques, mais qui répond exactement au même concept. Tout ça pour dire que fondamentalement, le spiritisme n'a rien inventé sur le point de vue idéologique. La seule différence, c'est qu'il s'inclut dans une religion qui est différente et qui s'appelle le spiritualisme. Alors que par exemple, dans la tradition grecque, il y avait une autre religion, ou encore une fois dans le christianisme, le judaïsme, etc. Tout ça. C'est ça fondamentalement qui est différent avec le spiritisme. Et maintenant, nous allons voir les différentes pratiques, les différentes méthodes qu'utilise le spiritisme pour tenter donc ses communications avec l'au-delà. Ces méthodes qu'utilise le spiritisme ont encore une fois cette volonté, à tort ou à raison, de s'inclure dans une sorte de pont entre science et théologie, ce que ne faisaient pas les anciennes pratiques de la Renaissance, du Moyen-Âge et de l'Antiquité, qui ne se présentaient absolument pas comme une démarche scientifique, mais qui se présentaient uniquement comme une démarche religieuse. C'est ça la différence fondamentale du spiritisme avec les autres pratiques de nécromancie, c'est qu'il tente de se présenter sous une forme scientifique, à tort ou à raison, encore une fois. Voici maintenant, assez rapidement, les différentes pratiques du spiritisme. Alors comprenez bien tout d'abord que je ne suis pas là pour vous donner un cours de spiritisme, je suis là simplement pour vous présenter l'histoire et les croyances qui ont trait à ses communications avec l'au-delà et donc au spiritisme qui est son avatar moderne. Alors pour les méthodes de communication, nous allons lister les plus importantes et les présenter relativement brièvement, à savoir tout d'abord la notion essentielle du médium ou du canal, ensuite nous parlerons des tables tournantes comme pratiquées par les Sir Fox notamment mais également Allan Kardec, et ensuite nous parlerons du Ouija ou du verre ou le verre à pied encore une fois, ensuite la psychographie, puis nous parlerons de clairaudience et de clairvoyance, de transcommunication et pour finir avec l'incorporation qui est sûrement la méthode la plus ancienne en réalité de méthode spirit mais qui n'avait pas ce nom à l'époque bien entendu. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un médium ou un canal? Eh bien, c'est fondamentalement l'élément le plus important, quelle que soit la pratique du spiritisme ou de communication avec l'au-delà, et ce aussi bien dans les sociétés animistes que dans la bonne société victorienne du 19e siècle. Un médium, c'est une personne qui a des capacités qui lui permettent d'entrer en communication avec l'au-delà. D'après les différentes études que nous avons sur le sujet, bien sûr par des personnages qui pratiquent le spiritisme ou qui sont proches des courants occultes, tout le monde n'aurait pas la capacité d'être médium. Ce serait uniquement réservé à certains individus qui auraient une sensibilité particulière ou un talent particulier qu'ils peuvent bien sûr cultiver. Fondamentalement, une personne peut s'améliorer dans la qualité médiumique, mais il semblerait que certains individus aient des prédispositions, encore une fois, à ce type d'éléments. Alors, le médium est celui, pour simplifier, qui a la capacité à contrôler le fluide magnétique, le fameux magnétisme animal d'Anton Mesmer, mais ce qu'on pourrait encore une fois appeler sous d'autres vocables dans des langues plus anciennes, comme par exemple le chamir chez les Hébreux. Le médium, avec sa capacité à contrôler le fluide magnétique, serait de ce fait capable d'être un canal, un pont qui relie le monde de l'au-delà avec le monde des vivants. L'esprit du défunt ou autre chose pourrait de ce fait communiquer via ce fluide avec le médium et le médium via son fluide à lui pourrait le retransposer dans la méthode spirit. Vous comprenez de ce fait, il ne peut pas y avoir de spiritisme sans un médium. Ensuite, on va passer à la méthode proprement parlée, à savoir à la table tournante. Donc une table tournante, alors, peut se matérialiser sous différentes façons, il s'agit d'une table à 4 pieds ou à 3 pieds, alors c'est plus facile avec 3, mais ça marche aussi avec 4 pieds, et donc on pose des questions à l'esprit, vous savez, le bon vieux esprit, es-tu là, etc., tout ça répond par oui, un coup, deux coups, enfin, je vous passe les détails, et donc l'esprit ferait bouger la table pour donner ses réponses. Donc il ferait frapper en basculant la table, en frappant alternativement un coup, deux coups ou plusieurs coups pour donner des réponses, oui, non ou encore tout un tas d'autres choses suivant comment les organisateurs de la séance font codifier la méthode. Alors, comment concrètement cela se passe pour les spirites? Donc, la table bouge, ok. Mais comment concrètement ça se passe? Est-ce que l'esprit qui, avec ses mains invisibles, fait bouger la table? Eh bien, oui et non. Ce qui fait bouger la table, c'est le fluide, cette énergie invisible. Et c'est donc l'esprit qui agit sur ce fluide pour faire bouger la table. Donc ce n'est pas un contact direct, si vous préférez. En gros, l'esprit agit sur le fluide, mais la table possédant elle-même un fluide, c'est grâce à ce lien invisible que le mouvement a lieu. Dans une autre version, c'est en réalité l'esprit qui agit via le médium, et c'est le médium via son fluide magnétique à lui qui ferait bouger la table. Donc, comprenez bien encore une fois que ce n'est pas une action physique invisible qui fait bouger la table, mais c'est en gros l'élément invisible de la table elle-même qui se met à bouger et qui, par extension, fait bouger la table. Du moins, c'est l'explication qui est donnée dans un point de vue ésotérique, peut-on dire. Alors, les tables tournantes sont la méthode la plus ancienne dite de spiritisme, mais néanmoins, c'est une méthode fastidieuse et relativement contraignante, ce qui fait qu'Alan Kardec va la trouver relativement désuète et va lui préférer d'autres méthodes. Alors, on va trouver la plus connue et la plus usitée aujourd'hui, notamment par les ados qui se livrent aux expériences de spiritisme, pour Pourquoi ? Parce que c'est déjà une méthode très facile à mettre en place et relativement fonctionnelle. C'est la méthode du Ouija, ou la fameuse table où se trouve l'alphabet, avec des réponses oui, non, des numéros, goodbye ou au revoir, etc. pour que l'esprit parte. On va trouver un schéma relativement équivalent avec le fer à pied. Alors on prend un verre, on le met à l'envers sur une surface lisse. On y dispose tout entour l'alphabet avec les réponses oui, non, au revoir, etc. Tout ça. Et donc, dans la méthode du verre à pied, c'est les praticiens qui mettent donc leur doigt sur le verre et ce verre va bouger, se déplaçant alternativement vers une lettre, puis une autre, etc. Tout ça. Dans la méthode du Ouija, on dit ce qu'on appelle une goutte, c'est-à-dire une sorte de petite plaquette en bois avec un trou dedans. Les personnes mettent leurs mains sur la goutte, cette goutte va se déplacer sur la plaquette et s'arrêter alternativement sur les lettres pour donner des réponses. Voilà, je vous passe les détails. Donc, de la même façon que les tables tournantes, la question c'est qu'est-ce qui fait bouger le verre ou qu'est-ce qui fait la goutte, et qu'est-ce qui fait bouger la goutte, etc. Tout ça. Eh bien, deux réponses possibles. Soit, explication 1, toujours pareil, c'est l'esprit via le fluide magnétique qui agit sur la goutte, ou le verre et qui l'a fait bouger. Deuxième option, c'est le médium qui sert de canal et c'est le fluide magnétique du médium qui fait bouger la goutte, etc. Tout ça. Alors ensuite, on va retrouver la psychographie. Alors la psychographie, sous ce nom savant, c'est quoi ? Plus connu sous le nom d'écriture automatique. C'est le moment où le médium crée le contact, le canal, encore une fois. L'entité va à travers lui pouvoir s'exprimer et donc le médium va, via le fluide magnétique, recevoir les informations qui vont lui permettre d'écrire sur une feuille de papier ou autre support, etc., d'écrire ce que le médium, enfin ce que l'entité lui dicte, donc ce qu'on appelle la psychographie. Ensuite, on va retrouver les phénomènes de clairaudience ou de clairvoyance. Alors toujours pareil, le médium et son fluide magnétique va se mettre dans un certain état de réceptivité, ce qui va lui permettre d'entendre des choses qui n'ont pas lieu dans le monde physique, mais qui ont lieu dans l'au-delà. Donc, comprenez, la clairaudience, ce n'est pas le fait d'avoir une ouïe particulièrement développée, puisque ce n'est pas des sons qui ont attrait dans la réalité physique. Ce sont des sons qui ont attrait dans la réalité invisible, l'au-delà. Donc, le clairaudient, c'est celui qui entend ce qui se passe dans l'au-delà. Le clairvoyant, c'est exactement la même chose, mais au niveau de la vue, il ne s'agit pas de voir quelque chose, d'avoir une vue particulièrement développée, de ce qui se passerait dans le monde physique, il s'agirait bien de voir des choses qui se passent dans l'au-delà. Donc clairvoyance ou clairaudience, c'est une qualité d'un médium à voir ou entendre des choses qui n'ont pas attrait dans la réalité physique, mais qui ont attrait dans l'au-delà. Ensuite, on va retrouver la transcommunication. Alors ça, c'est la méthode la plus scientifique, peut-on dire, des phénomènes, enfin des méthodes de spiritisme, puisque c'est la tentative de certains, de créer des appareils, ou du moins via des appareils, de percevoir ou de collecter des éléments qui n'appartiendraient pas à notre monde. Donc le but, par exemple, étant d'enregistrer des sons via un appareil, des sons qui n'appartiendraient pas à ce monde, donc qui ne s'entendent pas au niveau physique, mais qui viendraient de l'au-delà. Ou encore de les voir via des appareils photos, des caméras, ou tout un tas d'autres choses. Donc en gros, et le but étant, via un appareil physique, de capter quelque chose qui a trait à l'invisible et dans l'au-delà. La dernière méthode que nous allons étudier est l'incorporation. Alors c'est très simple, c'est le moment où un esprit, une entité, un défunt ou tout ce que vous voulez va prendre contrôle du corps du médium. Le médium va accepter que l'entité prenne le contrôle de son corps pour agir à sa place. Donc de ce fait, l'entité peut s'exprimer directement via la transmission du médium, puisque le médium ayant un corps physique, l'esprit n'en a pas, il va pouvoir utiliser le corps du médium pour s'exprimer, parler, etc. Tout ça. Alors l'incorporation se retrouve dans tous les phénomènes dits de transe qu'on va retrouver dans le vaudou, dans certaines sociétés mystériques, notamment le culte à mystère de Dionysos. On va retrouver ça dans tout un tas de pratiques à travers le monde, chamaniques, totémistes, etc. Tout ça. Donc l'incorporation est assez proche du phénomène qu'on appelle la possession, le moment où un esprit décide de posséder le corps d'un individu. Alors, maintenant que nous avons listé les principales méthodes usitées, du moins de spiritisme, mettons en avant une des premières difficultés de l'étude du phénomène. La science va nous dire, je prends l'exemple du verre à pied, parce que c'est relativement simple. Les participants mettent leurs doigts sur le verre se met à se déplacer via des différentes lettres. Et là, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui fait bouger le verre? Est-ce que c'est l'esprit via le fluide magnétique qui fait bouger le verre, donc de ce fait qu'il n'y a aucun impact des participants sur le verre? Ou alors, est-ce que l'esprit via le fluide magnétique est permis, enfin, c'est-à-dire que le médium via son fluide magnétique permet à l'esprit de communiquer ce qu'il veut dans le verre? De ce fait, ce ne serait pas le fluide magnétique qui ferait bouger le verre, mais ce serait bel et bien le doigt du médium, mais ce doigt étant piloté par le fluide magnétique et par l'esprit. Et là, vous comprenez toute la difficulté. Il est de ce fait impossible scientifiquement de prouver que le spiritisme est réel, il est de ce fait également impossible de prouver que le phénomène n'est pas réel. Parce que même si c'est le médium qui fait bouger le verre, cela ne veut pas dire, si l'on prend la croyance hein, bien sûr, que ce n'est pas son fluide magnétique qui le relie à l'esprit, et donc que le déplacement du verre est piloté par une entité extérieure. Et c'est là toute la difficulté du fonctionnement d'un spiritisme, c'est qu'il est à la fois improuvable et irréfutable non plus. Ce n'est qu'une question de croyance. Alors, je suis passé relativement vite sur les méthodes de spiritisme et je ne compte pas non plus vous détailler le fonctionnement d'une séance avec les bons vieux esprits et tu là, etc. Tout ça, ce n'est pas encore une fois le sujet de cette émission. Là maintenant, nous allons rentrer dans la quatrième partie, un petit peu plus technique, avec la cinquième qui le sera encore plus, où nous allons parler donc des témoignages, des différents récits que nous avons du spiritisme. Alors je ne vais pas vous faire non plus une émission récapitulant tous les témoignages que l'on a du spiritisme, et je ne vais pas non plus vous résumer toutes les études scientifiques sur le spiritisme, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une incapacité mutuelle de prouver ou d'infirmer le spiritisme. Le but, ça va être surtout de présenter des personnes qui se sont intéressées à ce phénomène de spiritisme et de montrer quelques curiosités associées à ces questions. Alors nous allons voir ce qui ressort un petit peu des séances de spiritisme, hein, particulièrement des témoignages du 19e siècle, mais également un petit peu du 20e. Ensuite nous parlerons du cas très étrange, hein, si l'on peut dire, des ectoplasmes, ces fameuses choses qui apparaissent sur des vidéos ou sur des photographies d'époque. On parlera ensuite de quelques chiffres pour observer un petit peu ce que l'on peut dire du spiritisme et même du paranormal au sens un petit peu plus large par rapport aux croyances des personnes. Ensuite, on parlera d'un scientifique qui a étudié les phénomènes du spiritisme, mais également d'autres phénomènes paranormaux, notamment la bilocation. Donc c'est William Scrock, qui notamment a été président de la Royal Society de Londres. Nous finirons avec une organisation qui s'appelle la Society for Psychical Research, donc une organisation qui recherche tous les éléments par rapport aux méthodes de spiritisme, aux diverses expériences, dans le but ni de prouver ni d'infirmer le phénomène, mais simplement de faire des recherches quant au phénomène dit du spiritisme. Et je terminerai en vous exposant un petit peu mes expériences personnelles, mon vécu quant à la pratique du spiritisme. Commençons tout d'abord avec les différents témoignages qui nous reviennent par rapport aux séances de spiritisme, alors principalement du 19e siècle. La première chose est que la plupart des personnes qui ont pratiqué ces séances de spiritisme, même en étant sceptiques, se sont retrouvées à l'issue convaincues par le phénomène, et encore une fois, même les scientifiques. Et il y a pour cela trois explications possibles. La première chose est que la personne, même sceptique, se retrouve dans une séance et va constater la réalité d'un phénomène, et de ce fait, va être convaincu de son authenticité. Ça, c'est le cas de figure le numéro 1. Mais il y a une deuxième possibilité. La personne sceptique se retrouve au milieu d'un groupe de personnes qui sont elles-mêmes convaincues par la réalité du phénomène. Et de ce fait, il peut se retrouver alpagué par cet égrégore collectif et finir par adhérer à l'idée majoritaire du groupe. Donc, qu'il y ait une réalité de phénomène alors qu'il n'y en avait pas forcément. Donc, on serait plutôt sur un aspect sociologique qu'une réalité du phénomène parapsychologique. Le cas numéro 3 est celui, bien sûr, de la fraude. Dans un groupe de personnes, imaginons 5 autour d'une planche Ouija ou d'un verre à pied, il est possible qu'une personne parmi le groupe soit un faussaire et décide consciemment de déplacer le verre ou la goutte, de ce fait, fraudant la séance et donnant une mauvaise perception aux autres utilisateurs. Le groupe aurait donc l'impression d'une réalité de phénomène, bien évidemment, sauf le faussaire qui serait la cause de la manifestation. Donc, troisième cas de figure qui est l'escroquerie. Voilà globalement les trois types de choses qui peuvent ressortir d'une séance de spiritisme. On constate cependant que la plupart, encore une fois, des personnes qui ont pratiqué ces séances ont été convaincues du phénomène. Remarquons quand même une autre chose. Si l'on s'intéresse aux témoignages, cette fois-ci du XXe siècle, on s'aperçoit que les personnes qui sont croyantes, et quelle que soit leur religion, sont plutôt favorables au spiritisme, au sens, non pas qu'elles apprécient la pratique, mais ont tendance plutôt à y croire lorsqu'elles ont participé à une séance. Alors qu'inversement, les personnes qui sont de nature plutôt athées, plutôt non-croyantes, vont plutôt être négatives quand elles vont participer à une séance de spiritisme. L'on peut donc considérer, et ça c'est unanime à tous les témoignages du spiritisme, que si une personne est croyante, elle a plus de chances de croire au spiritisme, et si une personne est non-croyante, elle a plus de chances de ne pas croire au spiritisme. Vous allez me dire, c'est globalement logique, mais ceci est quand même très intéressant, parce que cela veut dire que le spiritisme n'a à une efficacité réelle plutôt par rapport à une personne qui est déjà dans une prédisposition d'acceptation du phénomène, alors qu'une personne qui rejetterait par nature l'hypothèse de phénomènes paranormaux serait plutôt invulnérable, si l'on peut dire, à croire au phénomène du spiritisme, même en y participant, et même s'il se passe des manifestations, encore une fois, je vous renvoie au cas 1, 2, 3 cité préalablement, donc même en face d'une situation de phénomène, une personne sceptique de nature aura tendance à ne pas croire. Alors que le croyant, même s'il ne se passe pas grand-chose, aura plutôt tendance à y croire quand même. Donc, vous voyez, nous sommes dans des paradoxes relativement intéressants. Alors, la grande question des séances de spiritisme consiste en général à poser, enfin, le cœur d'une séance de spiritisme consiste généralement à poser des questions à l'esprit et notamment à avoir des réponses. Et il y a toujours, ça c'est une chose que j'ai remarqué, toujours la tentative de vouloir obtenir des réponses qui permettent d'accréditer la réalité du phénomène. Genre, poser des questions à l'esprit dans le but de le piéger ou de voir s'il est en capacité de répondre. Et là, nous sommes face à une triple difficulté encore une fois. Les témoignages sont tout à fait disparates par rapport à cette question. D'un côté, nous avons des témoignages de séances spirites où l'esprit a été en capacité de répondre à des choses qui étaient totalement inconnues de la part des participants. Ce qui nous renvoie, encore une fois, à la possible réalité du phénomène. Étant donné que si aucune personne autour de l'assemblée ne connaissait la réponse, que l'esprit a donné une réponse qui pourra se vérifier dans le temps, cela tend à accréditer le phénomène. Cas numéro 2, l'esprit répond à une question correctement, mais il se trouve que l'un des participants connaît la réponse. De ce fait, l'on peut hypothéser que, en réalité, ce soit le participant connaissant la réponse qui aurait pu manifester la réponse positive sur la table, consciemment ou inconsciemment. Cas numéro 3, l'esprit donne une mauvaise réponse. Alors ça, c'est très intéressant, parce que d'un côté, cela veut dire que soit il y a bel et bien un esprit, mais il est incapable de donner la bonne réponse parce qu'il n'a pas la préscience et ne peut pas tout connaître, ou alors, cela peut également être la réponse que les participants connaissent la réponse, l'esprit se trompe, et que le faussaire aurait volontairement faussé la réponse de l'esprit afin de ne pas le démasquer ou dans d'autres objectifs divers et variés. Donc, vous voyez encore une fois toutes les difficultés qui ressortent des différents témoignages des séances spirites. Certaines fois, les situations tendent à montrer que l'esprit connaît des choses fascinantes, inconnues de la part du groupe, et d'autres fois, l'esprit est en incapacité de répondre ou répond des choses qui sont connues des membres du groupe, ce qui n'arrive donc à aucune conclusion finale. La seule recherche intéressante serait les cas des situations où un esprit, ou du moins les phénomènes, auraient apporté des réponses inconnues de la part des sept participants. Toutes les autres peuvent facilement être expliquées et écartées, du moins en tant que preuve absolue. Alors, touchons quelques mots rapidement sur le phénomène des ectoplasmes. Alors, ectoplasme, vous rappelez, c'est quand une manifestation sera observée lors d'une photographie, d'une caméra ou autre. Alors, précisons quand même, avant de parler de canulars et de faux, c'est que le phénomène n'est pas encore totalement expliqué sur un point de vue scientifique à ce jour. Il y a des centaines et des centaines de photographies de formes dites ectoplasmiques qui ont lieu donc au 19e siècle, et je serais bien incapable d'apporter une quelconque réponse à ce type de choses. Juste notons quand même qu'il semblerait que lors de séances médiumiques, spiritisme et autres, certaines formes semblent apparaître, et donc que grâce à la photographie, cela permettrait de capter quelque chose qui ne soit pas visible physiquement, mais qui appartiendrait au monde de l'au-delà. Je mets ça entre parenthèses, puisqu'il n'existe aujourd'hui aucune réponse satisfaisante sur cette question, donc qui ne permet pas d'aboutir à des conclusions. Alors, rapidement, pour toucher quelques chiffres, pour vous montrer un petit peu la notion des croyances. Alors, c'est une enquête Sofres en 2000, qui nous montre un petit peu les croyances des gens. Alors, les gens, les Français croient-ils à la guérison par magnétiseur, imposition des mains? Donc, comprenez, à l'existence possible du fluide magnétique. Oui, à 54%. À la transmission de pensée, 40%. Aux rêves qui prédisent l'avenir, 35%. À l'astrologie, 33%. À la prédiction des voyants, 18%. Aux horoscopes, prédiction par signe astrologique, 18%. Et les tables tournantes, donc comprenez une des méthodes de spiritisme, 15%. Et aux fantômes et aux revenants, environ 13%. Donc vous voyez que, techniquement parlant, il y a relativement peu de personnes en France qui sont susceptibles de croire au spiritisme avec une hauteur de 15 à 20% sensiblement. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre de gens qui sont essayés au spiritisme bien plus important. Alors ce qui met en cause toujours une triple difficulté. La première possibilité, et c'est que des gens se sont essayés au spiritisme, ont conclu que cela n'existait pas et de ce fait n'y croient pas, tout simplement. La deuxième possibilité est que les gens ont essayé le spiritisme, y croient, mais n'osent pas spécifiquement le dire. La troisième possibilité étant que le sondage est mal fait, en l'occurrence, et ne pose pas la question, si ce n'est avec la question des tables tournantes, ce qui est extrêmement réducteur, le spiritisme étant bien plus vaste que les simples tables tournantes, et je pense que sur la croyance du phénomène, on pourrait facilement arriver à un 30 ou 40% à l'équivalence de l'astrologie ou des rêves qui prédisent l'avenir, sans pour autant atteindre une moyenne générique en France. Alors ceci est tout à fait hypothétique, mais au vu de ce que j'ai pu constater, il me semble qu'une bonne trentaine de pourcents de la population française est susceptible de croire au phénomène dit du spiritisme. Étudions maintenant le cas des études de William Crookes. Alors, William Crookes, qui a vécu au 19e et au début du 20e siècle, est un chimiste, un physicien. Il a été l'inventeur de plusieurs choses, notamment des tubes de Crookes. Il a découvert des éléments chimiques comme le protactium et le thallium. Et il sera donc également président de la Royal Society de Londres. Alors pourquoi cette carte d'identité? Tout simplement pour vous dire que ce n'était pas un charlot, hein, c'était un homme reconnu par ses pairs. Et il s'est, en parallèle de ses travaux de chimie et de physique, il s'est intéressé aux phénomènes dits paranormaux. Alors notamment la bilocation et au spiritisme et à la médiumité. Alors il est intéressant de dire que il a accompli donc de nombreuses expériences avec des médiums et autres sur ces différents phénomènes, et qu'il en arrivait à des conclusions positives sur l'existence du spiritisme et de la bilocation. Alors ces travaux n'ont pas été reçus positivement par la communauté scientifique, mais voilà, et le but n'était pas aujourd'hui de vous dire que c'est lui qui a raison et pas les autres, ou l'inverse d'ailleurs. L'idée c'est simplement de vous dire qu'il a existé des scientifiques au cours du temps qui ont défendu la réalité du phénomène, alors que d'autres, bien sûr, l'ont critiqué. Donc j'en reviens sur ma conclusion personnelle, qu'il est impossible de prouver et impossible de réfuter l'existence du spiritisme à l'état. Présentons rapidement donc la Société for Psychical Research, donc une société qui s'intéresse au phénomène du spiritisme et aux phénomènes paranormaux. Alors nous allons retrouver d'éminents scientifiques qui ont participé à cette société. Notons d'ailleurs qu'elle existe encore, elle est constituée d'une vingtaine de membres à leur état. Nous avons donc Charles Robert Richer, donc un physicien. Nous avons également John William Strutt, William Crookes cité préalablement, ainsi que Carl Gustav Jung, connu pour ses travaux sur la psychologie analytique. Donc toutes ces personnes ont fait des recherches, ont participé à des séances de spiritisme et ont tenté, encore une fois, d'expliquer le fonctionnement et la mécanique de cette pratique. Notons quand même que pour l'unanimité de ces quatre personnages, ces quatre scientifiques étaient convaincus de la réalité du phénomène du spiritisme sans pour autant avoir réussi à prouver que le phénomène était valable. Et ça, c'est toute la dichotomie, encore une fois, de cette histoire. Alors passons maintenant à mon témoignage personnel donc sur la pratique du spiritisme. Alors comme certains d'entre vous le savent, j'ai déjà pratiqué le spiritisme pendant à peu près 3 années, vers l'âge de mes 20 ans. Alors, situons un petit peu où je me place déjà par rapport au taux de réceptivité possible par rapport au phénomène de spiritisme. Étant par nature un croyant, je vous rappelle, je ne suis pas chrétien, ni musulman, ni juif, etc., mais je suis néanmoins un croyant. C'est-à-dire que je crois en tout un tas de choses possibles, et notamment en l'immortalité de l'âme et l'existence de ce fait d'un au-delà. Donc déjà, je suis susceptible à la croyance du spiritisme. Cela ne veut pas dire que je vais y croire automatiquement, mais néanmoins, au moment où j'ai pratiqué mes séances de spiritisme, j'étais dans un état d'esprit de positivité par rapport à la réception de ces types de phénomènes. Donc, la première fois que j'ai fait du spiritisme, c'était initié, si l'on peut dire, par une amie ainsi qu'une autre personne, qui donc m'a mis en situation, verre à pied, donc trois, avec le verre sur le. Enfin, avec le doigt sur le verre, les questions, etc. Le grand classique du spiritisme. Je vous passe les détails techniques. Donc, du coup, moi, je constate de mes propres yeux à l'époque que le verre bouge. Première chose. Alors évidemment, alors je vais vous parler tout d'abord consciemment. On est bien d'accord. L'inconscient, on en parlera après. Consciemment, je ne faisais pas bouger le verre. C'est comme ça. Il ne me semble pas que les deux autres participants faisaient bouger le verre. Tout à fait possible qu'il y ait mensonge et qu'il y ait manipulation de la part d'autrui. Néanmoins, là c'est mon point de vue, encore une fois, je ne pense pas que les deux autres personnes manipuler la situation puisqu'elle ne leur était déjà pas profitable au vu des réponses et en plus de ça ils étaient beaucoup plus croyants que moi du type de phénomène puisqu'ils avaient beaucoup plus d'expérience et le pratiquaient assidûment et de plus leur situation de vie personnelle sociologique, hein, de vie courante attestait typiquement qu'ils n'étaient pas dans une démarche de manipulation mais dans une démarche plutôt d'interrogation donc ce n'était pas de, ils n'avaient pas le profil du faussaire donc je ne pense pas qu'il y avait un faussaire volontaire dans mes premières séances. Ensuite de cela, j'ai volé de mes propres ailes, si l'on peut dire, et j'ai commencé à faire du spiritisme, notamment avec mon meilleur ami pendant à peu près 3 années. Et il y a eu donc tout le temps avec mon meilleur ami, mais il y avait également d'autres personnes. Alternativement, on a atteint des groupes de parfois 5 jusqu'à 7 personnes pour des séances de spiritisme variables, principalement donc verre à pied ou Ouija, mais il y a également eu d'autres méthodes un petit peu différentes à avoir lieu. Toujours dans la bonne entente, si l'on peut dire, qui se sont bien passés. Alors, sur toutes les séances de spiritisme que j'ai été amené à faire, j'ai constaté dans 95% des cas une réussite du phénomène. Alors, réussite du phénomène, qu'est-ce que j'entends par réussite du phénomène ? Cela ne veut pas dire qu'un esprit était présent. Et cela ne veut pas dire qu'un esprit a provoqué ces phénomènes. Je constate juste qu'il y a eu un phénomène, c'est-à-dire un déplacement du verre dont je ne m'estimais pas volontaire, ou de la goutte, ou de tout un tas d'autres choses. Donc, de ce fait, moi je constate une réalité du phénomène par ma pratique. Les causes de ce phénomène seront étudiées par la suite, où je vous donnerai mon point de vue juste après. Je constate juste qu'il y a une résultante. Je constate également que les séances étaient tout à fait disparates dans leur efficacité, c'est-à-dire que des fois, les phénomènes étaient très intenses, le verre par exemple se déplaçait extrêmement vite, et d'autres fois c'était très mollasson. Alors je me suis posé naturellement la question de savoir si mon état psychologique, mon état de forme si l'on peut dire, pouvait avoir un impact sur la réactivité du phénomène. Et non, en l'occurrence, des fois où j'étais particulièrement en forme, le verre fonctionnait très bien, et très mal, et puis inversement, des fois où j'étais pas spécialement en forme, le phénomène pouvait être efficace, etc. Donc il n'y a pas une logique entre mon état et l'état de mes confrères spirites, peut-on dire. Il n'y avait pas de relation entre notre état du moment et l'impact du phénomène. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, maintenant, y avait-il des faussaires ? Alors quand j'étais avec mon meilleur ami, ayant une confiance absolue et pouvant remettre ma vie sans aucun doute dans les mains de mon meilleur ami, j'ai une totale confiance en lui et j'espère qu'il avait la même confiance en moi. Donc de ce fait, nous n'avons pas, je peux l'affirmer, agi sur le phénomène consciemment. Inconsciemment peut-être, mais consciemment non, je n'ai pas fait bouger le verre consciemment et lui n'a pas fait bouger le verre consciemment. Dans les séances où nous étions plus que deux avec d'autres individus, je n'aurais pas cette même affirmation. Je ne pense pas que les 4 ou 5 autres personnes présentes occasionnellement avaient une ambition malveillante donc de fraude. Néanmoins, on ne peut pas jamais écarter totalement cette hypothèse. Donc ce n'est pas les séances où je vais m'attarder le plus, puisque je ne peux pas affirmer à 100% qu'il n'y ait pas manipulation. Consciente, j'entends. Donc je reviens sur les séances à deux avec mon meilleur ami. Je n'ai pas constaté consciemment d'altération ou du fait d'avoir provoqué un phénomène en déplaçant le doigt ou autre chose. Ça, c'est un constat à l'état. À l'époque où je pratique ces séances, j'étais convaincu du phénomène. Ça, c'est important pour l'état psychologique. J'étais convaincu du phénomène et j'étais convaincu de la réalité des esprits et tout un tas de choses. Et je vous ferai un bilan critique de ça juste après. Alors, qu'en est-il des réponses de l'esprit ? Eh bien, les esprits parfois se sont trompés et parfois se sont pas trompés. Donc, il arrivait fréquemment que l'esprit réponde aux questions positivement, c'est-à-dire il donne la réponse à la question. Le problème étant que la plupart du temps, moi et mon ami connaissions les réponses. On voulait juste une confirmation de l'esprit. Or, l'esprit n'a fait que confirmer ce que l'on demandait. De ce fait, cela n'est absolument pas une preuve de la réalité du phénomène. Deuxième cas, quand l'esprit s'est trompé. Eh bien, l'esprit s'est trompé, pourquoi ? Il y a plusieurs possibilités. Nous connaissions la réponse, l'esprit se trompe. Si l'esprit se trompe, c'est que du coup, il ne veut pas nous faire plaisir. Mais peut-être que nous-mêmes ne voulions pas nous faire plaisir, etc. C'est très, très relatif. Mais tout ça pour dire que l'esprit n'a pas toujours répondu vrai. Ensuite, nous avons tenté, eh bien, tout à fait naturellement, de tenter de poser des questions à l'esprit de choses que nous ne connaissions pas, dans le but de les vérifier a posteriori. Et ceci n'a pas été concluant. Cela a pu être concluant, mais je mets ça sur le dos de la chance. Je mets ça sur le dos de la chance parce que le taux de réussite était trop faible pour considérer qu'il y avait une véritable prescience de la part de l'entité. Donc, du coup, que puis-je conclure à titre personnel des séances de spiritisme ? À aucun moment, je ne peux affirmer que le phénomène de spiritisme est réel. En revanche, je peux affirmer qu'il y a un phénomène. Et c'est ça la différence fondamentale. Le phénomène que je peux constater est-il dû à un esprit ? Et c'est ça la question que l'on va poser juste après. Alors, préalablement, je vais quand même vous faire un bilan personnel par rapport aux expériences des trois possibilités qui ont lieu lors d'une séance de spiritisme. Alors, je vous ai répertorié trois cas. Bien sûr, à titre personnel, j'ai une préférence pour l'un de ces trois cas, sans pouvoir à ce stade l'affirmer totalement, bien sûr. Le cas numéro 1. Une entité se manifeste lors d'une séance de spiritisme, comprenez, et agit via la méthode spirit et engendre des phénomènes. Cela valide la réalité du spiritisme et de l'existence de l'au-delà. Cas numéro 2. L'inconscient de l'un ou des participants provoque le phénomène spirit. Cela, de ce fait, invalide la réalité de la méthode spirit et du spiritisme et ne donne aucune preuve de l'existence de l'au-delà. Cas numéro 3, celui qui a ma préférence, le groupe spirit, hein, comprenez, engendre inconsciemment ou consciemment un égrégore, donc une sorte de pensée collective, et ce dernier, cet égrégore, provoque le phénomène spirit. Donc, dans ce troisième cas de figure, le spiritisme n'établit pas un contact avec un défunt, comprenez un esprit, mais engendre un phénomène en relation avec l'au-delà, comprenez avec le monde invisible. Donc, de ce fait, voici les trois possibilités globales qui existent du spiritisme. Cas numéro 1, il y a bel et bien un au-delà et des esprits qui provoquent des phénomènes. Cas numéro 2, tout ceci est d'ordre psychologique et donc de ce fait de l'inconscient. Cas numéro 3, il n'y a pas de présence d'esprit ou d'entité extérieure, mais c'est le groupe par lui-même, qui va engendrer une pensée collective consciente ou inconsciente et qui va être la cause de ces phénomènes, ce qui, néanmoins, atteste l'existence de l'au-delà, mais ne permet pas d'attester la présence des esprits, bien entendu, si ce n'est l'égrégore créé par le groupe. Continuons avec quelques éléments de mon expérience personnelle. Encore une fois, j'ai pratiqué plusieurs centaines d'heures de séances de spiritisme, ce qui m'a permis d'avoir une observation assez large du phénomène, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fiable. Entendez-moi bien sur ce point. Alors, une chose suivante qui est par rapport aux interrogations face aux esprits. La plupart du temps, les réponses de l'esprit étaient en corrélation avec mes croyances de l'époque. Étaient du moins donner une sensation de satisfaction par rapport à mes convictions de l'époque. Et c'était également valable pour mon ami, bien sûr. Donc, de ce fait, l'esprit était en lien, si l'on peut dire, avec notre pensée, puisqu'il donnait des réponses qui allaient dans notre sens. Et ça, c'est édifiant, et c'est édifiant en critique, c'est-à-dire que cela attesterait plutôt de la notion de projection personnelle, donc inconsciente, qui matérialise les réponses qui nous font plaisir ou qui nous font envie. Et donc, encore une fois, un aspect plutôt négatif sur le spiritisme sur cet aspect-là. La deuxième chose étant les sensations et manifestations extérieures. Alors, le corps est capable de mille prodiges, sans aucun doute. Un élément quasi unanime dans la pratique du spiritisme que j'ai vécu, du moins, est les modifications de température. Il est frappant de constater de grandes disparités de température au moment du début d'une séance de spiritisme, etc., tout ça. Alors, sur ce point, cela pourrait tenter un phénomène, de dire qu'il y a une certaine résonance fluidique ou astrale, du périsprit ou tout ce que vous voulez, si je suis la doctrine spirit de tout cela, qui se manifeste dans l'environnement du lieu de la séance. Néanmoins, il est tout à fait possible, encore une fois, que chimiquement dans notre corps se passent des réactions dues aux différentes enzymes, etc., et que cela provoque des effets qui vont nous faire avoir un ressenti différent face à ces situations. Donc ceci n'est pas une preuve empirique, encore une fois, de réalité du phénomène. La troisième chose, cette fois-ci beaucoup plus pertinente, encore une fois, est la manifestation extérieure dite lointaine, c'est-à-dire dans un cadre qui dépasse notre corps physique, mais de sentiments, de bruit ou de perception sensorielle par les sens auditifs et visuels qui ont attrait dans l'environnement. Par exemple, des bruits particuliers, répétitifs, à certains temps de distance, qui ont lieu dans l'environnement pendant la séance et qui n'ont pas lieu avant et après la séance, ou encore d'autres choses, de phénomènes extérieurs. Donc ça aurait plutôt tendance, en sens inverse, à attester la validité du phénomène. Donc vous voyez, par rapport à ma pratique personnelle, j'ai collecté des données qui vont plutôt dans le sens d'un inconscient qui provoque des événements en corrélation avec mes croyances et mes aspirations, et de l'autre côté, j'ai quelques manifestations qui me tendent à penser qu'il se passe des manifestations dites de l'au-delà, sans pouvoir à aucun moment affirmer de la présence d'un esprit. D'où ma préférence pour le cas numéro 3, qui est de la création d'une sorte d'égrégore collectif via les participants. Et là, nous réexplorerons ce problème dans la fin de la conclusion de cette vidéo. Pour le moment, nous allons quitter un petit peu mon expérience personnelle qui n'a que pour but d'illustration et absolument pas de vérité. C'est simplement pour vous livrer en fait mon partage de vécu et donc qui permettra aussi d'illustrer les raisonnements que j'aurai actuellement puisque je suis moi-même critique de ma propre expérience dans la dernière partie. Alors, pour la conclusion, nous allons tout d'abord parler du phénomène. Existe-t-il ? Y a-t-il un fond de réalité dans sur cette question ? Comment peut-on tenter d'y répondre, je dis bien ? Ensuite, nous parlerons des dangers du spiritisme et nous allons voir qu'ils sont multiples. Ensuite, nous parlerons de la question de l'au-delà qui est fondamentale et qui est surtout la véritable interrogation du spiritisme. En réalité, la question des phénomènes spirites n'a que pour but de mettre en avant la véritable question qui est donc l'existence de l'au-delà, de la possibilité de la vie après la mort, de l'existence de l'âme et tout ce que vous voulez. Nous allons disserter quelques instants. Ensuite, nous parlerons de la réponse de René Guénon face au phénomène du spiritisme. Nous prendrons ensuite la réponse de Stanislas de Guaita qui est en grande partie la même que la mienne, ou du moins c'est plutôt moi qui ai en grande partie la même réponse que lui, si je puis dire, ou du moins il a influencé ou grandement participé à l'établissement de ma réponse actuelle, et je terminerai justement avec mon bilan personnel, le spiritisme ou la nécromancie moderne. Alors, le phénomène existe-t-il ? Eh bien, la communication avec les morts est-elle possible ? C'est ça la véritable question. Le spiritisme en tant que tel n'est que la dernière version de la tentative de communiquer avec l'au-delà. Et comprenez, quand je dis l'au-delà, ce n'est pas limitatif aux disparus, aux défunts, mais cela concerne également tout type d'entité, quelles que soient les définitions qu'on peut leur donner. Alors, commençons ce petit schéma avec d'abord les croyances des individus. Qui, potentiellement, peut croire au spiritisme par rapport à sa croyance ? Donc, si vous êtes chrétien, eh bien, à la base, non. Vous n'êtes pas censé croire au spiritisme si vous êtes chrétien. Alors je n'ai pas dit, attention, que tous les chrétiens ne croient pas au spiritisme, je dis que fondamentalement par rapport à la pensée chrétienne, il est impossible que le spiritisme soit réel. Car toute manifestation qui aurait lieu lors d'une séance ne serait qu'un fantasma, un fantôme si vous préférez, qui serait en réalité une apparition démoniaque ou diabolique, et pour cela je vous renvoie aux théories de saint Augustin et de Tertullien. Donc de ce fait, une séance de spiritisme pour un chrétien, dans l'absolu, ne ferait pas entrer en contact avec un mort, mais ferait entrer en contact avec une manifestation démoniaque. Dans le cas où on intègre la notion du purgatoire, il est en effet possible, dans ce cas de figure, de contacter des défunts, qu'on appellerait des revenants dans ce cas de figure, mais néanmoins ce serait un acte contre nature et donc interdit dans la notion du christianisme. Dans le judaïsme, la notion du spiritisme est de ce fait possible, puisqu'il est possible de faire de la nécromancie et de contacter les défunts, néanmoins cela est strictement interdit dans le judaïsme. Mais quelqu'un qui est juif, fondamentalement, peut potentiellement croire au spiritisme. Dans l'islam, c'est la même chose que le judaïsme. C'est possible, suivant les différents courants néanmoins, mais c'est littéralement interdit encore une fois. Si vous avez une pensée et une tradition animiste, par nature, vous êtes censé croire au phénomène du spiritisme. Alors comprenez bien, pas forcément les méthodes spiritisme table tournante Ouija, mais vous êtes censé croire à la possibilité de communication avec l'au-delà. Si vous êtes un spirit, eh bien évidemment oui, puisque vous êtes un adepte du spiritisme. Si vous adhérez à une tradition païenne occidentale, comprenez, tradition hellénique, tradition celtique, romaine, tout ce que vous voulez, eh bien par nature, le contact avec l'au-delà, avec les défunts et autres entités, fait partie intégrante de la tradition religieuse. De ce fait, si vous êtes dans ce type de croyance, fatalement, vous êtes plutôt réceptif à la croyance des phénomènes spirites. En Égypte antique, c'est pareil. Le chamanisme, bien évidemment, intègre ce type de pratique. Le shintoïsme croit également en contact avec l'au-delà. Le vaudou utilise même l'incorporation, donc évidemment croit à la possibilité de contact avec l'au-delà. Et dans les courants des occultistes, eh bien c'est très intéressant parce que cela dépend des courants. Certains occultistes vont prétendre qu'il est possible de contacter les défunts et certains occultistes vont prétendre qu'il n'est pas possible de contacter les défunts. Pour prendre l'exemple, René Guénon pense qu'il n'est pas possible de contacter les défunts et Stanislas de Guaita pense qu'il est possible de contacter les défunts. Alors, bilan de cette histoire, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence du spiritisme ou de la possibilité de communiquer avec les morts ou les esprits, ou même si ces derniers existent. Mais il n'existe aucune preuve scientifique qui permettrait d'affirmer que les phénomènes de communication avec les morts ou les esprits sont impossibles. De ce fait, c'est une question de croyance, ni plus ni moins. Voilà pour la réalité ou non du phénomène. C'est bête et idiot, et on ne peut pas donner de réponse fermée, parce qu'il n'existe encore une fois aucune preuve pour infirmer ou affirmer l'existence du spiritisme, d'où mon témoignage n'a que valeur d'archivage pour l'intégrer à vos propres éléments de réflexion personnelle, mais en aucun cas ils sont une réponse à la question, et j'insiste sur ce point. Ensuite, parlons des dangers du spiritisme. Eh bien, globalement, on pourrait les schématiser en « il y en a deux ». Si le spiritisme existe, vous pouvez finir possédé par une entité et ça peut très mal finir. Et puis inversement, si le spiritisme n'existe pas, vous pouvez tout à fait finir en hôpital psychiatrique. Alors, je m'explique un petit peu sur ces différentes notions. Si le spiritisme existe, il y a donc des entités, esprits ou autres, défunts ou autres, qui peuvent se manifester. Et donc, de ce fait, c'est une porte ouverte, un canal est ouvert entre l'au-delà et le monde physique. Et cela peut engendrer des problèmes, car si la situation n'est pas maîtrisée, n'est pas encadrée et n'est pas correctement effectuée, eh bien, l'entité pourrait rester, pourrait venir vous parasiter, ce qu'on appelle des larves ou autre vocable suivant les traditions, et on pourrait arriver à un état dit de possession. Je vous rappelle que l'une des méthodes spirites, l'incorporation, est exactement la même chose que le phénomène de possession, si ce n'est que possession est un mot négatif, alors que incorporation ne l'est pas forcément. Donc, dans le cas où le spiritisme est une réalité et qu'il y ait réellement contact avec des entités, cela n'est pas sans risque, puisque cette entité peut être malveillante et engendrer des troubles et des situations difficiles par la suite de l'événement si la séance n'est pas bien exécutée. Donc, de ce fait, le spiritisme est dangereux et ne peut pas être recommandé. Cas numéro 2, le spiritisme n'existe pas, mais néanmoins, il est quand même relativement rare que des personnes qui ne croient pas au spiritisme s'adonnent à la pratique du spiritisme, ou si ce n'est du moins pas au-delà d'une fois. Quelqu'un qui ne croit pas au spiritisme va pouvoir, dans un cadre scientifique, faire des expériences tests, mais une personne qui pratique assidûment le spiritisme alors que le phénomène n'existe pas, cela peut engendrer des troubles psychologiques qui sont intéressants à étudier. Une personne peut se croire possédée, ce qui peut arriver à un état de difficulté aussi grave que la possession elle-même si elle existait. Une personne qui fuit certaines choses dans le spiritisme, cherche des réponses, va d'une certaine façon lâcher prise de son propre destin et subir les troubles de son inconscient. Cela va pouvoir engendrer des phénomènes de bipolarité, de schizophrénie ou d'autres troubles mentaux divers et variés. Donc pour une personne X ou Y, je serais tenté de dire que le spiritisme est une pratique qui a une certaine part de risque et qui ne peut pas être prise à la légère. Alors, la plupart du temps, ce sont beaucoup de jeunes qui s'adonnent au spiritisme. C'était mon cas, je pratiquais le spiritisme à une vingtaine d'années. De ce fait, j'étais typiquement dans le cas de figure des personnes intéressées par l'étrange et l'occulte. Et je pense que c'est une pratique qui n'est pas totalement sans risque. D'où l'importance de bien la codifier et de bien la structurer afin d'éviter ces différents problèmes et d'avoir toujours un regard critique sur ce type de pratique, afin de garder le fil de sa raison, son fil d'Ariane, pour pouvoir sortir du labyrinthe de la folie, pour tout simplement. Cela nous amène à la question fondamentale qui est bien plus intéressante que le spiritisme en tant que tel. C'est la question de l'au-delà. Alors, nous avions dit tout à l'heure, en explorant un petit peu les croyances de l'Antiquité et autres, que la croyance de l'au-delà est un invariant qu'on retrouve sur toute la planète, toutes les civilisations et à toute époque. Le spiritisme est une méthode pour contacter l'au-delà, contacter défunts ou autres entités habitant l'au-delà. Si l'au-delà existe, il y a possibilité éventuelle de créer un contact avec cet au-delà. Mais si inversement l'au-delà n'existe pas, de par nature, le spiritisme est impossible, ainsi que tout autre phénomène de nécromancie ou de contact avec quelque chose qui n'existerait pas. Donc vous voyez que là, on tombe encore une fois dans le phénomène de la croyance. La question suivante associée serait pourquoi le spiritisme a eu tant de succès à une époque et pourquoi aujourd'hui il existe d'autres méthodes qui ne sont certes pas le spiritisme mais qui répondent aux mêmes difficultés. C'est l'interrogation humaine de la vie après la mort. Fondamentalement, le spiritisme est un avatar moderne qui renvoie à la grande question de la peur de la mort, à l'existence après. Qu'est-ce que recherche un adepte du spiritisme? Il tente de répondre aux questions qui ont trait à la vie d'après. Il tente de comprendre l'architecture métaphysique de son environnement. L'adepte du spiritisme tente d'obtenir la preuve par une manifestation de la réalité. Je m'explique. Si l'on croit dans l'au-delà, c'est très bien. Mais le spiritisme permet d'apporter par un verre à pied, une table tournante, de la psychographie ou tout ce que vous voulez, une sorte de preuve, une manifestation dans la réalité de l'existence de l'au-delà. Et cela peut avoir donc de ce fait un côté rassurant pour confirmer ou renforcer la croyance d'un individu en la question de l'au-delà et de ce fait en la préservation d'une sorte d'existence ou de vie après la mort. Donc fondamentalement, le spiritisme est une tentative d'apporter une preuve matérielle de l'existence de l'au-delà. Pourquoi le spiritisme, sous sa forme actuelle, n'a pas pu exister avant le 19e siècle? Eh bien, parce que fondamentalement, avant le 19e siècle, l'intégralité ou la quasi-intégralité des gens avaient la certitude absolue de l'existence et de la réalité de l'au-delà. Ils n'ont donc, de ce fait, pas ressenti le besoin d'apporter une preuve scientifique de la réalité de l'au-delà. Mais lorsque la sécularisation de la société a commencé, on a pu commencer à écouter un discours inverse de celui qui est « Eh bien, nous vivons, nous mourons, et après c'est définitivement fini ». Donc, une personne qui est croyante, se retrouvant confrontée à ce type de pensée, va devoir naturellement développer une méthode afin d'obtenir une sorte de preuve, une preuve physique, de l'existence de l'au-delà. Et c'est là qu'on arrive à une sorte de non-sens absolu. Alors, voyons maintenant un peu ce que dit René Guénon par rapport à ça. Alors, René Guénon, rapidement, donc 1886 à 1951, est l'un des auteurs les plus connus dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Alors, pour la position de René Guénon, ce dernier nie les phénomènes de spiritisme, hein, comprenez bien, et en condamne la pratique. Le spiritisme, d'après lui, est nuisible car il contrevient aux vérités de la métaphysique pure. Ensuite, le spiritisme est une pratique égotique en quête de matérialisme qui joue sur le spectaculaire. Alors là, ça vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, qui est que, en gros, le spirit cherche à se prouver à lui-même, la réalité de l'au-delà via des observations dans le monde matériel, ce qui, fondamentalement, est un non-sens. Et sur ce point, je serai d'accord avec Guénon. Ensuite, l'éternité au sens guénonien serait atteinte quand l'esprit du défunt se fonde dans le tout, soit le retour de l'être au non-être, dans le grand tout. La communication avec les défunts est donc impossible. Alors, il faut comprendre un petit peu la pensée de René Guénon. René Guénon est ce qu'on appelle un orientalo-centré. Il voit en fait en l'Occident une véritable dépravation avec qui a perdu toute sa tradition ésotérique et sa spiritualité. Il pense que la tradition ésotérique de l'Inde est bien plus glorieuse, bien plus magnifique et bien plus tout un tas de choses. Donc René Guénon adhère aux préceptes qu'on va retrouver sensiblement dans le bouddhisme et l'hindouisme, l'idée de la disparition de l'individu pour se fondre dans une sorte de réalité du grand tout cosmique, une sorte de divin générique, encore une fois. Donc l'individu disparaît en se fondant dans cette réalité globale. De ce fait, une fois que l'on meurt, l'individu ne survit pas en tant qu'individu, en tant qu'esprit individuel, mais se fonde dans une masse divine bien plus complexe. Donc, il n'y a plus de défunt avec lequel communiquer. Donc, René Guénon ne nie pas néanmoins la réalité de phénomènes observables lors du spiritisme, mais associe ça forcément à des entités nuisibles à, ou de mauvais égrégores, etc., qui seraient la cause de ces phénomènes. Alors, pour faire une citation de René Guénon, l'histoire du spiritisme, à nos yeux, ne constitue qu'un épisode de la formidable déviation mentale qui caractérise l'Occident moderne. Donc, c'est très critique. Hein. Donc, dans son livre, René Guénon, le livre « L'erreur spirit », René Guénon fait une attaque en règle, si l'on peut dire, du spiritisme d'Allan Kardec et de tous les phénomènes associés. Il s'en prend également aux occultistes, aux théosophes et à tout un tas d'autres choses. Et ce que je pourrais reprocher à René Guénon dans ce texte, c'est la somme d'insultes à toutes les pages. Et je serais tenté de vous dire que quand on insulte, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, certes, je ne suis pas un guénonien et je suis très critique de René Guénon. Mais je pense pour ma part que René Guénon attribue sa critique du spiritisme principalement à son rejet de l'occultisme occidental, bien plus qu'au spiritisme en tant que tel. Et de ce fait, je trouve que la réponse de René Guénon est au meilleur des cas réduite, simpliste et péremptoire. De ce fait, je lui préfère allègrement la réponse d'un autre occultiste avec lequel René Guénon ne se serait pas bien entendu, à savoir Stanislas de Guaita, qui a vécu entre 1861 et 1897, donc qui est mort assez jeune. Donc Stanislas de Guaita, quant à lui, valide la réalité des phénomènes spirites, mais en conteste la cause. Donc Guaita ne nie pas la réalité des phénomènes qui se déroulent lors d'une séance spirite. Sur ce point, je suis d'accord avec lui sur le point de vue de mes expériences personnelles. Il en conteste néanmoins la cause, car pour Stanislas de Guaita, aucun défunt, aucun esprit des morts n'est la cause des phénomènes qui ont lieu lors d'une séance de spiritisme. D'après Stanislas de Guaita, le cercle spirit, comprenez les adeptes, provoque lui-même, ou eux-mêmes hein, si vous préférez, l'égrégore, c'est-à-dire l'entité à la base des phénomènes. Donc pour Stanislas de Guaita, le groupe de praticiens, par une pensée mise en commun et le rituel de la méthode spirit, vont engendrer une pensée collective, une forme pensée, qui prend le nom d'égrégore. Et c'est cet égrégore qui va agir pendant la séance spirit. Alors, d'après Stanislas de Guaita toujours, la séance spirit ouvre un lien vers l'au-delà et crée un lieu d'interdépendance. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que l'au-delà. L'au-delà, c'est pas le monde des morts. L'au-delà, c'est le monde qui est au-delà du nôtre. Comprenez le monde invisible, le monde astral, tout ce que vous voulez comme vocable. Mais l'au-delà n'est pas limitatif du monde des morts. Donc, fatalement, une pensée appartient à l'au-delà. Un concept appartient à l'au-delà. Et de ce fait, un égrégore appartient à l'au-delà. De ce fait, si les praticiens d'une séance spirit provoquent par leur pensée collective un égrégore, cet égrégore, fondamentalement, se trouve dans ce que vous rappelez l'au-delà, puisqu'il n'est pas visible. Mais néanmoins, c'est bien cet égrégore provoqué par les adeptes qui provoque les manifestations dans la séance spirit, ce qui provoque, encore une fois, comme le dit Guaita, une notion d'interdépendance. Les adeptes provoquent l'égrégore qui leur répond. Donc, c'est un peu question-réponse de quelque chose qu'on fait avec soi-même. Donc, ensuite, pour Stanislas de Guaita, le spirit est l'avatar du sorcier moderne. C'est l'avatar moderne, hein, comprenez 19e siècle, hein, on n'est pas à notre époque. C'est l'avatar du sorcier. Et le spiritisme est simplement une résurgence de la nécromancie. Et sur ce point, je partage tout à fait son raisonnement. Alors, une petite citation donc, de Stanislas de Guaita. « L'invisible discoureur, comprenez l'entité, l'égrégore, fera montre d'idées, de manière et de style parfaitement adéquats aux façons d'être de la pensée et de penser et de sentir propre à ses interlocuteurs. » Et nous allons détailler un petit peu tout ça par la suite. Alors, juste pour vous présenter, donc Stanislas de Guaita est un occultiste qui a écrit plusieurs textes sur le sujet, qui a l'avantage de ne pas être virulent en insultes comme le fut René Guénon, et donc ce qui fait que cela rend son analyse, à mon sens, beaucoup plus recevable, beaucoup mieux argumentée, beaucoup plus précise, tout en prenant en compte, bien sûr, que lui, comme Guénon et comme nous tous, avons tous nos croyances personnelles, et il faut se forger un avis critique et ne peut pas prendre pour argent. l'argent comptant, n'importe quelle pensée de n'importe qui pour se faire son propre opinion. Mais tout ça pour vous dire que, à titre personnel, je partage bien plus les positions de Stanislas de Guaita que de René Guénon. Ensuite, donc, nous allons passer à la conclusion, une conclusion personnelle, mais néanmoins qui est très proche des pensées du précédent cité, à savoir Stanislas de Guaita. Donc, dernière partie, le spiritisme ou la nécromancie moderne. Les humains ont toujours tenté d'entrer en contact avec l'au-delà. Le spiritisme est une nécromancie moderne pour des raisons relativement simples. Certes, la pratique de nécromancie que l'on trouve dans l'Antiquité ou même avant intégrer des sacrifices de sang dans le but de donner une sorte de nourriture terrestre, mais symbolique, qu'était le sang, aux entités du dessous, afin que ces dernières viennent, symboliquement bien sûr, afin de répondre aux questions, etc. Tout ça. Le spiritisme fait exactement la même chose, s'il n'est qu'il ne donne pas de sacrifice humain, etc., et utilise d'autres méthodes. Mais fondamentalement, la seule chose qui différencie les pratiques nécromantiques anciennes et les pratiques du spiritisme, c'est simplement la méthode. La méthode est différente, mais le fond est le même. D'où le spiritisme est bel et bien une réactualisation, une résurgence de pratiques nécromantiques. Alors, ces pratiques nécromantiques qui étaient condamnées notamment par l'Inquisition et par les mœurs au Moyen-Âge, n'est pas interdite à l'époque du 19e siècle, par la société. Le spiritisme n'est pas interdit par la loi, contrairement au fait qu'à une époque donnée, dans un monde plus religieux, la nécromancie l'était. Si le spiritisme avait existé au Moyen-Âge, il aurait été condamné exactement de la même façon que le furent la nécromancie, puisque les préceptes théologiques du christianisme notamment, mais également de l'islam et du judaïsme, interdisent la communication avec l'au-delà. Donc, de ce fait, il y a encore des parallèles évidents entre spiritisme et nécromancie, c'est exactement la même chose. C'est juste le vocable qui change. Et n'oublions pas d'ailleurs que Allan Kardec est l'inventeur du terme de spiritisme, mais que, préalablement, s'il n'avait pas inventé ce terme, on parlerait simplement de contact avec l'au-delà, ce qui est sensiblement la même chose que la nécromancie, qui permet donc des morts, de la mancie, donc la voyance ou la divination, etc., tout ce que vous voulez. Donc c'est exactement la même chose. Quand Stanislas de Guaita nous dit que le spirit est l'avatar du sorcier moderne, je partage son raisonnement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un sorcier ? Un sorcier est une personne qui pratique des arts dits occultes dans son profit personnel, dans son intérêt personnel. Et le spirit fait exactement la même chose. Il pratique un art dit occulte, la méthode spirit, dans le but d'obtenir une manifestation ou d'obtenir des réponses pour son profit personnel. Sur ce point, on peut faire un parallèle littéral entre le sorcier et le spirit. Mais cela ne veut pas dire que le spirit est quelqu'un de maléfique. Cela ne veut pas dire qu'il a de mauvaises idées. Mais cela veut simplement dire qu'il s'inclut exactement dans le même cadre que le sorcier qui faisait un rituel du Moyen-Âge dans un but divers et varié de contact avec l'au-delà en nécromancie. C'est un parallèle absolu et je suis parfaitement d'accord avec ce raisonnement. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe dans une séance de spiritisme ? Alors, et là je vous partage donc mon point de vue, qui n'a pas un caractère scientifique, mais qui a simplement un regard critique, sociologique et philosophique par rapport à mes expériences et mes analyses du sujet. Et encore une fois, je vais être très proche de la pensée de Stanislas de Guaita. Un groupe, disons de 5 personnes, possèdent tous entre eux des pensées, une personnalité et des connaissances. Or, qu'est-ce que l'on peut constater ? Lors d'une séance de spiritisme, la chose, l'esprit, l'entité ou l'égrégore qui va répondre aux questions va, la plupart du temps, répondre des choses qui sont cohérentes et en adéquation avec la pensée globale du groupe. Si vous avez un groupe de 5 ou 6 personnes qui sont tous des philosophes à tendance humaniste, étrangement, l'égrégore qui va donner des réponses se révélera de tendance philosophico-humaniste. Si vous avez un groupe de 5 personnes qui sont des scientifiques rationnels, les réponses de l'entité seront d'ordre scientifique et d'ordre rationnel. Et si vous avez un groupe hétéroclite, avec des pensées littéralement différentes et opposées, des niveaux d'instruction particulièrement différents et opposés, vous aurez en face un esprit stupide et un esprit qui n'a pas de pertinence et qui ne répond à rien de concret, voire ne fait que des erreurs. Et ça, je le valide par rapport à ma propre expérience. J'ai remarqué que lors d'un groupe hétéroclite, la résultante du phénomène spirit, certes observable, est complètement décousue et que L'égrégore, qui est manifesté par le groupe commun, va donner quelque chose de décousu. Alors que inversement, si le groupe est homogène, je prends l'exemple à deux, quand j'étais avec mon meilleur ami pour faire ses séances spirit, étant donné que nous avions une pensée relativement proche, des connaissances relativement proches, l'esprit était en connexion parfaite avec nos pensées collectives. Nous avons à deux créé un égrégore qui nous correspondait, et en fait, nous nous répondions à nous-mêmes via cet égrégore fantoche créé par nous. Voilà, à mon sens, ce qu'est le spiritisme. Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes n'ont pas lieu. Donc, ce qui pose la question suivante de l'existence de l'au-delà, encore une fois, et de l'existence de l'âme et de l'esprit, etc. Qui est la question fondamentale, beaucoup plus importante que le phénomène du spiritisme en lui-même, qui, à mon sens, n'est qu'une projection globale d'un groupe créant un égrégore collectif, etc., etc., et ce qui peut engendrer d'ailleurs des problèmes et tout un tas d'autres pathologies d'ordre occulte ou éventuellement d'ordre psychologique, suivant votre positionnement par rapport au spiritisme. Que ceci soit de l'ordre de l'inconscient est évidemment totalement possible, mais la seule chose qui permettra de différencier la théorie de l'égrégore avec la théorie de l'inconscient et donc psychologique est la croyance, encore une fois. Quelqu'un d'athée qui ne croit pas à l'existence de l'au-delà va penser qu'il s'agit simplement de l'inconscient de l'homme, et quelqu'un de croyant qui croit à l'existence de l'au-delà va penser plus aisément à cette notion d'égrégore. Finissons avec un dernier point. Les contacts avec les défunts sont-ils possibles? Eh bien, je serais tenté de vous dire pourquoi pas. Je pense que le spiritisme ne répond pas à cette problématique, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe aucune méthode pour contacter les défunts. Je n'ai pas de réponse à cette question, je n'écarte pas l'hypothèse que cela soit possible, mais je pense en aucun cas que le spiritisme permette de répondre à cette difficulté. Ni plus, ni moins. Alors, ensuite, sur un aspect plus personnel, est-ce que je regrette ma pratique de spiritisme ? Absolument pas. À aucun moment je ne regrette cette pratique, pour la simple et bonne raison qu'elle correspondait à mon cheminement de l'époque, à mes aspirations de l'époque, et répondait à mes envies, tout simplement. Est-ce que je fais du spiritisme aujourd'hui ? Non, je ne pratique plus le spiritisme depuis plus de 10 ans. Et cela n'est pas un manque, mais pas une envie non plus d'en refaire. Je ne ressens pas le besoin de faire du spiritisme, puisque je pense avoir fait le tour de la question et répondu en grande partie aux interrogations métaphysiques que cela pouvait éventuellement m'apporter. Mais néanmoins, à un moment de ma vie, ce cheminement était peut-être de l'ordre du nécessaire, et de ce fait, je n'ai absolument aucun avis négatif sur le fait d'avoir pratiqué le spiritisme pour moi-même ou pour autrui d'ailleurs. Voilà globalement pour ce que je voulais vous dire sur la pratique du spiritisme. Nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris des choses. Alors, si vous avez apprécié cette émission et mon travail, eh bien je vous rappelle que vous pouvez soutenir la Web TV en devenant mécène sur Tipeee ou souscripteur sur YouTube, ce qui vous donne accès en contrepartie aux vidéos privées de l'Académia. Car je vous le rappelle, c'est grâce à vous et uniquement à vous et votre soutien que la chaîne existe et que je peux continuer à vous proposer des émissions sur YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête sur la chaîne Arcanal et Mystères du Monde, où nous traitons des sciences occultes, de l'histoire des civilisations, des traditions ésotériques, des religions et des mythologies de par le monde. À très bientôt.